Guillet comme pasteur. Tu es venu avec Philippe Jauré, avec Sylvie, et aussi Isabelle Jauré, et c'était tellement précieux. Et je me rappelle, il y avait tellement la présence de Dieu avec vous que des femmes célibataires qui étaient en train de se convertir, on avait une toute petite, toute fine, ils sont arrivés dans la salle et elle a balancé des chaises à l'autre bout de la pièce. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Ça m'avait marqué. Vous vous en rappelez? Non? Oui? C'était costaud. Donc, tout de suite, c'était, voilà, confrontation directe, mais ça bougeait. Et il y avait des très bonnes choses qui se passaient. Et puis, tu voudrais dire quelque chose? Je commence, moi, ce qui m'a marqué, surtout avec vous deux, c'est après, avec les écoles prophétiques, donc le ministère Samuel, les semaines bénies que j'ai pu passer et qui ont changé ma vie. Et souvent, je dis à l'école que je ne pourrais pas être maîtresse dans l'école chrétienne et tenir face aux enfants et des fois plus avec les parents derrière, si je n'étais pas passée par ces temps dans la présence de Dieu où il y a eu tout ce ministère qui a été fait, nettoyage, remplissage et toutes ces bonnes choses que Dieu a fait. Alors, c'est jamais fini, mais c'est vrai que ça, je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au cours de toutes ces semaines-là, quoi. Et je suis vraiment reconnaissante.
Pour moi, ils sont aussi un modèle au niveau de la famille. Je crois qu'ils ont il y a un super témoignage au niveau de leur famille, de leurs enfants qui marchent avec Dieu. Les enfants, les petits-enfants, marchent tous avec Dieu, c'est ça, Sylvie? Et comment? 11 petits-enfants. Waouh! Et au niveau prophétique, moi, je me souviens souvent d'une parole que tu avais donnée, André, à Hélène, à un moment où on se posait un petit peu la question de savoir. Je ne sais même pas si on te posait la question de ce que tu allais faire. Non. Attends, mais en tous les cas, il y avait eu cette vision d'André. Il voyait un truc comme on a en Afrique, là, comment on appelle ça un... Moi, c'est l'image que j'ai. Il avait vu quelque chose qu'on broyait, t'écrasait de la nourriture.
Pour la donner à des enfants.
Un pilon, ouais, je pense que c'était ça l'image. Et ça, c'était avant qu'elle rentre dans les écoles chrétiennes. Enfin, qu'elle soit. Et pour moi, c'est vraiment une illustration de son ministère. Le fait de. Entre autres, hein, une des choses qu'elle a, c'est que rendre les choses accessibles, la nourriture accessible pour les enfants, ça fait partie vraiment d'un quelque chose que Dieu a donné à Hélène. Et pour moi, c'était vraiment une parole tellement belle, tellement claire que le Seigneur avait donnée au travers d'André, bien des années avant que tu rentres dans cet appel. Il y en a eu d'autres, hein, mais en tous les cas, pour moi, elle est significative, celle-là, en tous les cas. Voilà. Bon, nous, on est tellement contents qu'il soit là et je ne sais pas quoi dire d'autre.
Voilà, et eh bien on va profiter de son ministère et celui de son épouse. Donc tout au long de cette journée, c'est sûr que je vous laisserai à 20h30, mais ça dépend comment le Saint-Esprit va agir. Peut-être on aura fini avant. En tout cas, on va profiter pleinement de la présence de nos bien-aimés et puis surtout du Seigneur. Et demain encore, on sera ensemble au culte. Alors André, que Dieu te bénisse et merci d'être venu. Hein, on vous a attendu longtemps, mais on n'a rien perdu au change.
Merci André, c'est quand même extraordinaire de rencontrer un autre André rempli du Saint-Esprit. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a interpellé, j'espère que vous avez été interpellé par ce qui est passé hier soir à Paris. Et ce matin, j'ai pleuré devant Dieu. J'avais mal à la France en moi. Et je vous propose peut-être avant de commencer qu'on se lève et qu'on prie un instant pour notre pays. Seigneur, quoi dire sinon que nos cœurs sont brisés devant toi, devant le carnage du diable, la puissance de destruction du malin. Nous n'aurons pas de mots, sinon des cœurs, Seigneur, qui veulent servir et bénir. Et nous voulons élever ton nom et nous voulons prier pour le président de la République dans ce moment crucial de son mandat, pour le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, chaque ministre à part, pour les chefs de l'opposition. Nous crions à toi pour que dans cette circonstance, le pays fasse preuve d'une seule voix, d'une même unité, du désir de voir les choses changer. Et nous demandons l'intervention de Dieu pour que le cœur de cette nation qui a été si dure, si impénétrable à l'évangile, un peuple, une nation qui a refoulé, qui a rejeté les principes fondamentaux de l'évangile, qui ont pourtant bâti cette nation. Seigneur, fais grâce à ce peuple. Fais grâce aux familles endeuillées. Nous crions à toi pour les papas, les mamans qui ont perdu un fils, une fille, un enfant. Nous crions à toi pour que toi, le Dieu de toute consolation, tu viennes et tu interviennes en ton amour pour ces familles endeuillées par le nom de Jésus. Et ces circonstances nous permettent aussi de voir que nous sommes dans une guerre et que notre combat n'est pas contre le sang et la chair. Seigneur, et nous demandons ta grâce, ta faveur cet après-midi. Viens nous équiper, viens communiquer dans nos esprits les armes de la lumière. Seigneur, afin que notre combat soit un combat pour la justice, pour la paix, pour une pénétration de l'évangile dans cette région de Paris et de la grande ceinture parisienne, dans le nom de Jésus. Nous voulons proclamer qu'il y a une année de grâce préparée de la part du Seigneur. Nous déclarons avec Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la France. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur Paris. Nous croyons, Seigneur, à un puissant et glorieux réveil où la gloire du nom de Jésus sera révélée pour les enfants, les adolescents, les pères et les mères et les personnes âgées. Nous croyons, Seigneur, que tu vas te glorifier des circonstances et nous demandons ta faveur sur notre pays en ce moment. Seigneur, que la sagesse d'en haut soit donnée à nos politiques au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Nous prions et nous bénissons la nation de France. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. En fait, je fais souvent des songes, mais j'ai souvent des visions. Très, très souvent, j'ai des visions et parfois, je vais me reposer 3 minutes et en 3 minutes, Dieu me parle. Et en fait, c'est la vision que j'ai eue, je vais vous la partager, après avoir lu un passage avec vous, qui pour moi va aussi être la dimension dans laquelle Dieu veut nous introduire pour qu'on puisse le servir avec plus d'efficacité. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici !» C'est une ordonnance. « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône était assis quelqu'un qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et ils portaient des couronnes d'or sur la tête du trône. Sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Et au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a un visage d'homme et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur ils ne cessent de dire jour et nuit saint, saint, saint et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, qui est et qui vient. En fait, la vision que j'ai eue tout à l'heure, j'ai vu une immense salle. Je ne connaissais pas votre église. Et il y avait un rideau. C'était étonnant. J'ai l'impression d'avoir vu cette salle. Et le rideau était fermé, mais il était entrouvert. La lumière passait. Et c'est comme si j'entendais le Saint-Esprit me dire, je vais tirer le rideau. Et dans ce week-end, je vais permettre que vous voyez ce qu'il ne voit pas encore. Et en tout cas, je ne sais pas vous, mais dans mon histoire, depuis tout petit, il y a eu un ardent désir de voir Dieu. Un ardent désir de connaître la proximité de Dieu. Qu'est-ce qui se passe autour du trône? J'ai eu une vie un petit peu trépidante. Hein. Je me suis converti à l'âge de 17 ans, en 68, l'année où André aussi a trouvé le Seigneur. Donc c'est assez étonnant que deux André trouvaient Jésus la même année. En tout cas, c'était l'année des André. Et pendant quelques années, donc, ma vie a été bouleversée par la venue du royaume de Dieu dans ma vie, partiellement. Et j'étais, en fait, partagé entre deux dimensions. Il y avait la dimension qui m'attirait, c'était la présence de Dieu et le monde surnaturel de la présence de Dieu. Et il y avait aussi une attirance énorme pour tout ce qui touche la terre et ses plaisirs. Et pendant des années, j'ai fait, vous savez, le grand écart entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Et à un moment donné, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, si tu continues à faire le grand écart, tu vas être déchiré par le milieu. Et j'ai eu peur de cette parole. Et dans les années 80-81, il y a eu une recherche inassouvie de Dieu dans mon histoire. On était mariés depuis 5 ans avec Sylvie. Notre mariage fut un total échec. On est restés 7 ans fiancés. Et tous les rêves que nous avons faits, tout ce que nous avons déclaré, même prié, pendant ces 7 années de préparation au mariage, après le mariage, ça a été un cuisant échec. On a l'impression qu'on avait complètement zappé toutes les prières et tous les rêves que nous avions faits. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle m'a posé une question qui a été le déclic et le tournant de ma vie. Elle m'a posé la question suivante. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Avant d'avoir donné sa réponse pour savoir si elle engageait sa vie avec moi, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'ai dit ce jour-là, j'ai intérêt à donner la bonne réponse. Sinon, je vais être squeezé de cette belle jeune fille blonde aux yeux bleus qui me troublait intensément dans mon âme. Et j'ai dit qu'elle a la meilleure réponse à apporter à cette demoiselle. Et tout de go, c'était complètement émotionnel. J'ai répondu, je vais servir Dieu. Elle m'a tendu la main, elle me dit, alors c'est d'accord. Et dans mon esprit, je me suis dit, je l'ai eu. Mais en fait, c'est Jésus qui m'a eu ce jour-là. J'ai le sentiment qu'un ange à la droite de Dieu a eu l'ordonnance du Seigneur qui disait, prends le livre et écris, André Debenet, bon pour le service, a déclaré qu'il voulait servir Dieu. Méfiez-vous des paroles que vous prononcez. C'était des paroles remplies d'émotions, mais je vous assure, ma vie, ma destinée a commencé à prendre vie, forme à ce moment-là. 4 et 5 ans de brouillard, de difficultés. Sylvie pensait même à se séparer de moi. Entre-temps, un fils nous était né, qu'on avait appelé Nathanaël. C'était un enfant magnifique. À 4 ans, il a fait l'expérience sous nos yeux de la visitation du Saint-Esprit, conviction de péché, rempli de larmes. Il a dit, je veux recevoir Jésus. 4 ans, sur les genoux de sa mère, il a donné sa vie à Jésus. Il n'a jamais bronché depuis ce moment-là où il a accepté Jésus comme son sauveur personnel. L'année 80 arrive. Et j'étais tourmenté dans mon être intérieur à cause de cette division, cette séparation, une forte envie en moi de suivre Jésus et de m'aligner avec ce que sa parole de Dieu, la parole de Dieu disait. Et une autre partie en moi qui disait, mais jouis des plaisirs de la terre. Et il y a eu ce moment où c'est comme si l'Esprit de Dieu me dit, si tu fais pas le choix maintenant, tu vas perdre et tu n'entreras pas dans ta destinée. Et vous savez, moi, je ne connais pas, absolument pas l'anglais, à part quelques mots. Et on m'a donné une cassette en anglais, de chants, de croyants, charismatiques, anglais. Et j'ai mis ça dans mon camion, je rentrais dans le marché, j'étais marchand de marché à l'époque. Et j'ai mis cette cassette en route. Et quand j'ai mis cette cassette en route, le ciel s'est ouvert. Et j'ai eu une visitation de l'Esprit de gloire. J'ai commencé à parler en langue. J'ai eu tellement peur de ce que je disais. Parce que je ne comprenais pas, je ne maîtrisais pas ce que je disais. J'ai dit, je vais m'arrêter, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Après 14 ans de résistance, le Saint-Esprit était entré en moi. J'étais tellement ému. Je me suis mis à pleurer tellement la gloire du Seigneur était dans ce camion. Et pour la petite histoire, je croyais qu'il pleuvait dehors. J'ai allumé l'essuie-glace du camion. À cause de des larmes qui mouillaient mes yeux, je suis rentré. Sylvie était en recherche 48 heures plus tard. Elle connaissait cette nouvelle dimension et nos vies ont commencé à être bouleversées à ce moment-là. Et puis il y a eu une période, vous savez, on a commencé une église locale entre maisons. On a rencontré Philippe Jauret, qui est devenu mon ami et qui est toujours mon ami malgré les 8000 kilomètres qui nous séparent. Et elle a commencé à vouloir rebâtir en France. Et le livre qu'on avait les uns et les autres comme étude, c'était le livre de Néhémie. Cet homme qui était venu au péril de sa vie et qui avait une bande de fous, il a dit « Nous allons reconstruire les portes et les murailles de Jérusalem ». Et ça, ce livre a une telle connotation dans nos esprits et dans nos cœurs qu'on a dit le jour où on a commencé à se retrouver. Vous savez, c'était très drôle. Il y avait au milieu de nous un Jean Hubert qui sortait des églises pentecôtistes, ADD. Il y avait un Roland Ponce qui sortait des églises réformées. Il y avait André Debenet qui sortait d'une église d'arbiste, anti-charismatique. Et tout ça, vous mettez ensemble, vous secouez, et plus d'autres réformés comme Fabien Ponce, etc. Et ça vous fait un pastis du tonnerre. Et on a dit, mais si nous voulons réussir, si nous nous unissons ensemble, si nous mettons ensemble les dons et l'onction que nous avons reçus, nous allons former une équipe et on va pouvoir rebâtir les murailles. Et dans les années qui ont suivi, on a commencé à faire de l'évangélisation systématique. Moi, je me souviens dans ma rue, dans ma ville qui m'a connu, 7000 habitants, tout le monde me connaissait comme marchand, un peu voleur, comme voyou, puis chrétien. Et mais ils n'ont jamais vu André Debenet dans la rue d'un village de 7000 personnes avec une guitare en train de dire « Repentez-vous, race de vipères, parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Alors, j'ai failli me faire tuer à Stafford, le pays d'un célèbre chanteur qui s'appelle Cabrel. Et en tout cas, ça a été le début du temps où Dieu m'a amené dans une sorte de prison. J'ai fait une prière un jour, méfiez-vous des prières que vous faites. Et ça, on en parlera ce soir ou demain matin, mais j'ai fait cette prière de David. Sonde-moi, ô Dieu, vous connaissez? Et connais mon cœur. Et montre-moi si je suis sur une voie de d'égarement ou de péché. Et conduis-moi dans la voie éternelle. Et 48 heures après, je faisais un songe. Dans le songe, j'étais dans un puits profond. Et je marchais au milieu des excréments et de la boue. Et je ne pouvais pas sortir du trou. Et quand je me suis réveillé, je dis, c'est le combat spirituel, le diable qui m'attaque, arrière de moi, Satan. Mais une petite voix m'a rappelé la prière que j'avais fait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais si c'est toi, Dieu, qui me parle, remets le songe. Et la nuit suivante, remets le songe. Et là, j'ai eu peur. Et quand je me suis réveillé, dans la matinée, j'ai pris le temps, j'ai dit, la personne qui va me sauver, elle a souvent été ma protection. Mon bouclier, c'est mon épouse. Je suis très, très, très marqué. On vient de vivre une semaine à Melchisedec, donc l'école de Fabien Ponce, l'école de formation prophétique. Il y avait une femme du Canada qui était là, qui s'appelle Stacy Campbell et son mari Wesley. Et elle est venue, elle a raconté ma vie publiquement. J'avais envie de lui dire, mais tais-toi. Publiquement. Et elle a commencé à parler sur ma femme, elle a raconté sa vie, comment elle avait été à mes côtés. Et là, je me suis mis à pleurer. Elle a dit, mais ton épouse Sylvie, tu as été un rempart pour ton mari, une protection lorsque ton mari a été attaqué. C'était tellement fort de savoir que mon épouse avait été ce rempart. Donc je suis allé vers elle en me disant, après ce songe, elle va me délivrer, elle va prier pour moi et je serai sauvé. Elle m'a regardé dans les yeux. Et quand j'ai raconté l'homme qui marchait dans les excréments et qui ne pouvait pas sortir du puits, elle a exactement répondu comme David, avec le prophète Nathan, lorsque Nathan lui a dit, David, tu es ce meurtrier, tu es cet homme-là. Ma bien-aimée qui m'a assassiné publiquement, en fait c'était Dieu dans sa bouche. Son amour pour Dieu, on va le voir, était plus fort que son amour pour son mari. Donc tout ce qui a été bâti s'était effondré. J'étais pasteur à ce moment-là. C'était tellement violent que j'ai dit, mais Jésus, tu m'as appelé. J'ai commencé une église sur ton ordonnance. Mais ton église, la voilà, je suis pas apte. Et Dieu m'a dit, t'es un petit orgueilleux. Tu vas continuer à me servir, tu vas continuer à être pasteur. Et pendant que tu marches, je vais te sanctifier. 10 ans. Entre-temps, j'ai fait une chose, une folie impensable. J'ai déclaré la guerre au prince de l'Iran. C'était le temps où monsieur l'Ayatollah Khomeini, vous vous souvenez, ayant été reçu en France, a été rapatrié dans son pays où il a formé une révolution sanguinaire. Et j'ai dit, je vais détrôner cette puissance. Et donc j'ai déclaré la guerre au prince de l'Iran, le prince du désert, appelez-le comme vous voulez. Et 24 heures après, ou une heure après, c'était la guerre à la maison. Je ne maîtrisais plus rien. J'avais l'impression que la maison physiquement allait brûler. Il y avait une sorte de colère, de violence dans la maison. Je ne comprenais pas ce qui se passait avec les enfants, avec mon épouse. C'était l'horreur. Et à ce moment-là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, sors, je vais te parler. Je suis sorti dans le jardin et il m'a parlé. Il m'a dit, qui t'a donné le mandat pour aller déclarer la guerre au prince de l'Iran? En tout cas, c'est pas moi. Et là, je me suis mis à trembler. J'ai saisi toute la folie de ma démarche. Et j'ai dit, Seigneur, mais délivre ma famille, délivre-moi. Dieu a mis la paix, il a mis le couvert sur ma famille. Mais il m'a dit, maintenant, je vais te rectifier la personne que tu es. Pour que ma gloire soit manifestée dans ta vie, je vais m'occuper de former le vase que tu es. Et en fait, la vocation dans laquelle je suis rentré, je le partageais tout à l'heure à mes amis, Michel et André, qui sont mes nouveaux amis, je leur disais, mais en fait, et aussi à Florence qui était là, j'ai dit, mais en fait, ce que Dieu m'a donné comme mission en tant que prophète, et au travers des écoles prophétiques, c'est avant tout, c'est non pas apprendre aux gens à prophétiser, mais c'est apprendre à ce que leur vase soit purifié pour contenir l'esprit des prophètes et l'esprit de prophétie. Alléluia. On a reçu un ministère arabe il y a quelques mois qui nous a bouleversés parce que c'est une personne qui est une femme que j'aime énormément, qui vit à Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et cette femme-là a donné l'enseignement sur la destinée d'Ismaël. Et cet enseignement était absolument fantastique, extraordinaire. Et elle a montré comment son peuple et le peuple arabe est aussi appelé à entrer dans une destinée de gloire. Et elle a parlé d'un réveil sans précédent qui allait venir. Et tout cet été, on est parti en Grèce, se reposer, on a vécu un drame épouvantable au mois de juin. On a un jeune homme qui était en formation et qui s'est tué en voiture. Il a cramé dans sa voiture. Et on a assisté les parents pendant 2 mois. C'était l'horreur. Et on est sorti de là complètement brisé. Vous pouvez comprendre que parfois, même si nous sommes, Jésus a triomphé de la mort et nous avons triomphé avec lui de la mort, toutefois, l'incidence de la mort a un impact sur la vie des croyants. Et on est parti en vacances. Les 15 premiers jours, ça a été difficile. Mais la deuxième quinzaine, la présence de Dieu est venue. Et un après-midi, nous étions en train de siroter un café frappé. Vous savez, les Grecs, ils sont fantastiques pour ça. Enfin, un café frappé, on était sous des paillotes, là, en paille, à 2 mètres de la mer. Et Dieu me commençait à me parler de l'esprit de réveil. À cause de l'enseignement de cette femme qui parlait du glorieux réveil qui allait venir sur le monde arabe et sur Israël et sur les nations. Et j'ai dit à Jésus, j'ai posé cette question. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi l'esprit de réveil? C'est quoi rester aligné avec le ciel? Et l'esprit a commencé à me parler. Et depuis ce moment-là, donc depuis le mois d'août, je suis en train de travailler sur un enseignement que je vais vous donner cet après-midi. Et demain matin, je vous en donne les grandes lignes parce qu'on n'aura pas trop le temps d'entrer dans les détails. Mais je crois qu'il y a un désir ardent du Seigneur de nous réaligner avec ce qui se passe là en haut. Alléluia. Moi, je ne suis pas un mystique. En tout cas, le mauvais mysticisme, vous savez, le mysticisme conduit à la folie. Mais le mysticisme de Dieu, c'est-à-dire la recherche de sa présence, de qui il est, de ses commandements, de ses ordonnances, ça, mon âme en a besoin. Et j'ai dit, Seigneur, mais en fait, quelles sont les clés pour voir un réveil à Paris et dans toute la région parisienne et dans tout le pays de France? Quelles sont les clés du réveil? Et c'est les choses que j'aimerais partager maintenant avec vous. Et la première chose qui manifeste l'esprit de réveil, c'est la passion pour Dieu. La passion pour Jésus et pour le projet de Dieu. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 4. Je vous adjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le désire. Puis 2 Corinthiens 12, 10, Paul dit, c'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. À cause de la dimension de l'évangile, à cause de l'amour que Paul avait pour l'évangile. En fait, ce qui va faire la différence et qui va maintenir la présence du ciel dans ta vie, c'est pas des principes religieux. C'est même pas parce que tu fais ton culte personnel. Mais c'est de vérifier que ta passion pour Dieu et pour le projet de Dieu est toujours vivante en toi. Écoutez, ça fait 35 ans que je suis pentecôtiste, charismatique. Ça fait 35 ans que la passion que j'ai pour Dieu n'a pas diminué d'un iota. Et si ma passion diminue, alors j'engrange le jeûne pour que la passion de Jésus revienne en moi. Est-ce que vous comprenez? La passion nous permet de voir des miracles. Jésus avait été rempli de la passion du Père. La passion de Jésus, c'était de voir la terre souillée par la puissance du péché, libérée de la puissance du diable. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit de Jésus va parler à Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et va lui dire, mais la création, elle est en attente des fils de Dieu. Elle attend la révélation des fils de Dieu. La création, cette ville d'auberge en ville, alléluia, la ville de Paris, la ville de Bordeaux, Marseille, la ville où nous habitons, Nérac, elle attend la révélation des fils de Dieu. Et nous sommes théoriquement la révélation que le monde attend. Mais où est la vie et la passion de Jésus en nous? La passion, elle fait faire des actes de folie. Moi, avant de me marier, j'étais fiancé 7 ans. Pendant 7 ans, il y avait une passion en moi. C'était le samedi après-midi, quand j'avais terminé mon réassortiment pour le marché. J'enfourchais ma 2 chevaux 6 Gordini. Et je faisais Nérac, Bordeaux d'une seule traite, pied au plancher, jamais en freinant. Je me suis pas renversé. Et cette passion m'entretenait tout le voyage. Je vais voir la bien-aimée. Je vais la voir. Je vais la serrer dans mes bras. Je vais l'embrasser. Toute la semaine, j'ai pensé à elle. Et voyez-vous, quand j'arrivais, qu'elle était sur le pas de la porte, mon âme était comblée. Alléluia. La bien-aimée m'attendait sur le pas de la porte. Eh bien, de même qu'il y avait cette passion pour Jésus, pour la bien-aimée, cette passion pour Jésus a été renouvelée dans ma vie depuis 35 ans et a été renouvelée dans la vie de mes enfants. Sans passion, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. La passion, c'est cet amour fou qui t'amène, on le verra à le point suivant, à obéir à des actes qui te paraissent insensés, qui t'amènent à faire des choses que tu n'avais pas prévues. Alléluia. La passion, elle nous transforme. La passion, elle est communicative. Ceux qui vivent avec moi, ne vous inquiétez pas, ils sont tous des passionnés. Ceux qui n'étaient pas passionnés sont partis. Parce que la passion, soit elle t'attire, soit elle te repousse. On n'aime pas les passionnés. Et pourtant, c'est la vocation de la France. La vocation de la France est une passion, est la dimension de Jean, justement. Nous sommes des prophétiques dans notre essence. L'histoire des Cévennes est la seule histoire d'un peuple prophétique dans toute l'histoire de l'Église. Il n'y a pas eu, à part en Israël, un peuple qui soit levé pour annoncer et proclamer les oracles de Dieu. La France est le pays de la passion, de la créativité, de l'art, de la communication, du verbe, alléluia. Un jour, j'ai fait un enseignement sur les valeurs de la France devant le trône. C'était à Paris, en fait. Dieu m'a parlé au travers d'un ministère américain qui était là. Il a dit, il y a une voix auprès du trône. Et c'est la voix de la France. Et moi, je me suis mis à pleurer. Je dis, Seigneur, quelle est cette voix? Et Dieu m'a parlé de la créativité. Il m'a parlé de la passion. Alléluia. Et je te pose cette question. Y a-t-il de la passion pour Jésus et pour le projet de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es résigné ou est-ce qu'il y a encore de l'enthousiasme? Enthousiasme, vous savez ce que ça veut dire, c'est être en Dieu. Le deuxième point qui me semble terriblement important, c'est l'obéissance à la voix de Jésus et pour le suivre. Acte 4, 19, Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger? Alléluia. On va le voir tout à l'heure que cette dimension de passion en nous va nous amener à chercher sa présence. Mais lorsque la voix du bien-aimé a retenti en nous, lorsque le feu a été allumé en nous, il y a le désir en nous d'obéir à la voix de Jésus et à suivre ses commandements. Et j'ajouterai, et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Non seulement ils sont salutaires pour nous, mais ils nous remplissent de la joie du ciel. Une des choses que Dieu a le plus travaillé, entre autres, dans ma vie et au niveau de mon caractère, c'est l'obéissance, avant même de comprendre. Je me souviens de Dieu qui m'a mis... Vous savez, Dieu, parfois, il teste notre capacité d'obéissance. Il y avait dans mon village un homme qui se mourait d'un cancer. C'était un gars de ma génération, ou de la génération de mon frère aîné. Et j'étais ému de compassion pour cet homme. Et Dieu m'a dit, tu vas aller trouver, frapper à cette maison, et tu vas demander à prier pour cet homme qui se meurt du cancer. Et Dieu ajoute, tu vas aller, mais ils ne te recevront pas. Mais j'ai dit, à quoi ça sert que j'y aille s'ils ne me reçoivent pas, Seigneur? Il m'a dit, ils ne te recevront pas, mais vas-y quand même. J'ai dit, mais t'as fait ça, t'as fait le quoi, Ézéchiel, déjà? Et je descends, disant, mais peut-être que la deuxième partie du message, c'était moi. Mais la première partie, je sentais tellement le besoin d'obéir à Dieu. Je suis descendu avec ma voiture, je me suis préparé, j'ai prié, j'ai adopté une attitude qui n'était pas une attitude agressive. J'ai sonné, j'ai fait un sourire au papa qui m'a ouvert la porte. Et il me dit, qu'est-ce que tu viens faire? J'ai dit, je viens prier pour votre fils. Et c'est Dieu qui m'envoie. Et cet homme me dit en substance, mais on n'a pas besoin de tes prières. Il me claque la porte au nez, je me reçois la porte sur le visage. Mon cœur était brisé, j'étais humilié. Je rentre dans ma voiture et vous savez, je pleurais sur moi. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait un coup pareil? Et Dieu me dit, je voulais tester ton obéissance. Et quand Jésus m'a dit ça, les larmes sont parties et la joie du Saint-Esprit s'est approchée. Je suis rentré, j'étais rempli d'esprit de joie. J'ai dit, Seigneur, cet homme a pris la responsabilité de ne pas recevoir ton serviteur. Mais j'ai eu la joie d'obéir à tes commandements. Il y a quelques mois de cela, une autre histoire qui est relativement récente. Je voyage dans toutes les nations, notamment en Suisse. Et je sers des amis qui sont en Suisse, des personnes qui ont une fonction importante au niveau économique. Et du fait de les servir, il y a souvent de la part de cette personne une offrande d'amour qui nous est donnée pour Sylvie et pour moi. Je n'ai jamais servi cet homme en vue d'avoir une offrande, mais chaque fois qu'il l'a donnée, ça correspondait à un besoin pour nos vies. Et cet homme a eu une conduite dans ces dernières années qui m'a semblé contraire à la pensée de Dieu. Et Dieu m'a dit, tu vas dire à cet homme que sa vie n'est pas conforme à ma parole. Et j'ai dit, Seigneur, si je fais ça, je perds mon soutien. Et j'ai dit, je vais le faire. J'ai parlé avec un prophète suisse avec qui j'ai une super relation. Et j'ai dit, mais tu sais, alors que nous suivons tous les deux cet homme, son comportement n'est pas justifié, il n'est pas justifiable. On doit avertir cet homme que ce qu'il fait n'est pas juste devant Dieu. Et j'ai rencontré cet homme, il m'a donné une opportunité incroyable. Il m'a dit, si tu as reçu quelque chose de Dieu, dis-le-moi. J'ai dit, mais justement, j'ai quelque chose à te dire. Quand je lui ai dit ça, il s'est mis en colère. Je l'avais jamais vu en colère. Il s'est mis en colère, et il n'a absolument pas reçu ce que j'ai porté de la part du Seigneur. Je l'ai béni, j'ai dit, écoute, on va rester quand même amis, hein, même si tu ne reçois pas ce que je te dis, on reste quand même amis. Et puis j'ai prié, j'ai remis ça au Seigneur, et plusieurs mois sont passés, et aucun téléphone, aucun mail de sa part. Moi j'avais simplement remis cette affaire au Seigneur, j'ai dit, c'est ton affaire, moi je suis heureux d'avoir obéi à tes ordonnances et à tes commandements. Et cet été, alors qu'on était en vacances, on reçoit un avis de virement, le plus gros virement qu'on ait jamais reçu. C'était cet homme. Voyez-vous que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, parce qu'on est passionné du Seigneur, il y a toujours une rétribution de sa part. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu va te pousser et va t'amener à faire des choses qui sont contraires à ta culture. Dieu va t'amener à dire des choses que tu n'avais pas prévu de dire. Mais l'obéissance vaut mieux que sacrifice, n'est-ce pas? Dans une église locale, ça passe en France, il y a un ancien encravaté avec le costard, encravaté, qui entend Dieu lui dire, tu vas faire le roux devant toute l'église. Tu vas faire la roue devant toute l'église. Il dit, Seigneur, jamais je vais faire la roue dans l'église. Enfin, c'est pas spirituel. Dieu lui dit, tu vas faire la roue. Et cet ancien qui obéit à la voix du Seigneur, il prend son élan, il fait la roue, toute l'équipe de responsables le regarde, ils ont dit, le frère, il a pété un câble, ça va pas du tout, et ils sont prêts à l'attendre à la sortie pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où cet homme arrête de faire la roue, il y a un homme qui vient du fond de la salle et qui s'approche et qui est saisi par Dieu. Et il dit, j'avais demandé à Dieu un acte impossible. J'ai dit, mais si c'est toi qui me parles, Seigneur, dans cette église, qu'un des anciens, celui-là, fasse la roue devant moi. Est-ce que tu es prêt à faire la roue? Un autre point important, c'est la recherche de Dieu. On est toujours dans la recherche des clés qui nous permettent de rester dans l'esprit du réveil. La recherche de Dieu et la voix du bien-aimé. Cantique des cantiques, je ne le lis pas, vous pouvez le lire. L'esprit du réveil, la présence de Dieu en nous, elle s'entretient. Un de mes amis, c'était Philippe, il disait toujours, « Oh mais André, il est tombé dedans quand il était petit, » par la potion magique. Et j'ai dit, il faut que tu arrêtes de dire ça, Philippe. Parce que je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. L'onction, je vais la chercher. Depuis 35 ans, ou à peu près, en tout cas, une bonne trentaine d'années, il me faut 30 chapitres tous les matins que Dieu fait, y compris les jours de fête et les dimanches. Parce que j'ai soif de Dieu. Ce qui permet à Dieu de se manifester par ma vie, et mon épouse est dans la même situation que moi, c'est qu'on est des gens inassouvis de Dieu. Nous sommes des chercheurs, des chasseurs de Dieu. Vous connaissez le bouquin, n'est-ce pas? Donc, on n'en a jamais allé assez de lui. On est toujours en quête de sa présence. Pas d'une présence imprécise, un truc, non. Le toucher, lui, toucher le bord de son vêtement. Le saisir, comme disait Paul, comme lui nous a saisi, alléluia. Et c'est ça qui va faire la différence. Cette recherche inassouvie de Dieu. Pourquoi David était un prophète, le double psalmiste d'Israël? Parce que cet homme-là s'écrit dans le psaume 63, « Mon âme a soif de toi, dans une terre altérée et sans eau, je te cherche au point du jour. » David avait une soif inassouvie de Dieu. Qu'est-ce qui attire la présence du Saint-Esprit au milieu de vous? C'est la soif de Dieu. C'est pas le prédicateur qui fait l'église. C'est le peuple dans son ensemble qui amène la présence de Dieu ou non. Si tu viens pour consommer, Dieu ne va pas se révéler. Je le dis, on le partageait encore avec nos amis hier soir, ou ce matin, mais un des problèmes cruciaux de l'église de France, c'est l'esprit de l'hédonisme, la recherche du plaisir. Tu ne viens pas à l'église pour éprouver du plaisir. Tu n'es pas là pour voir des choses surnaturelles. Tu es là pour le toucher. Tu es là pour lui faire plaisir à lui. Tu es là pour satisfaire le cœur de Dieu et le cœur du bien-aimé. Alléluia. Et si tu cherches Dieu de cette façon, à ce moment-là, le ciel va s'ouvrir et les choses surnaturelles qui te sont cachées vont commencer à t'apparaître. J'avais tellement soif de voir le monde surnaturel. Quand je suis devenu charismatique, j'ai dit, je veux voir des guérisons, je veux voir des miracles, je veux voir des résurrections. Alors j'ai vu deux résurrections. Ma nièce et un frère à 350 kilomètres qui étaient morts, écrasés par 350 kilos de verre, des plaques de verre sont tombées sur lui, ont enfoncé un thorax, il est mort. Mais après la prière, Dieu l'a sorti de la mort et il est revenu à la vie. Ma nièce, vous avez ça dans mon livre sur la famille, comment réussir ses vacances en famille. Et je raconte l'histoire de ma nièce qui est passée par la mort et qui était ressuscitée, foudroyée, dans la mer, en Turquie, foudroyée, avec une tache comme une grosse pièce de monnaie sur la tempe, foudroyée. Plus de pouls, ma femme est infirmière, elle a pris le pouls, elle a dit, ma chérie, c'est très grave. Je dis, c'était grave. Le diable m'avait dit, je l'ai eu. La mort avait frappé. Mais quand on a invoqué l'esprit du Dieu vivant, on a commencé à parler en langue et j'ai proclamé que Jésus était Seigneur de la terre de Turquie. Et j'ai dit, cette terre est au Seigneur, elle n'appartient pas au diable. Et j'ai réclamé que la puissance de la mort s'en aille trois fois. Et j'ai appelé l'esprit de vie trois fois. Et presque une minute plus tard, cette jeune fille a commencé à avoir les cils qui s'animent. La tache devant nos yeux, médusée, a disparu. Elle s'est atrophiée. Elle est partie de sa tempe. Elle a commencé à recracher l'eau de mer qu'elle avait avalée. Elle a commencé à respirer. elle a dit, où suis-je? Et je lui ai dit, tu es parmi les vivants. Et le vivant, c'est celui qui louera l'Éternel. Alléluia. Obéir à la voix de Jésus et chercher à le connaître, chercher à le toucher, va faire de nous, va faire de toi un instrument pour sa gloire. Vous savez, je ne cours pas après les serviteurs de Dieu. Jamais je n'ai suivi une mode. Ce qui s'est passé dans plusieurs nations, aujourd'hui comme hier, je l'ai vécu depuis des années et des années. Il y a 25 ans, on était au Burundi avec Philippe Jauret. Et on a vu le réveil venir sur cette nation. On a vu des rangées entières d'Africains tomber à la renverse sous la puissance du Saint-Esprit, sans qu'on les ait touchés. Et là, ce qu'on appelle la bénédiction de Toronto, le rire d'en haut, on m'en parlait aussi, parce que c'est une dimension que Dieu veut rendre à son Église. La joie dans la maison de Dieu. Ah. Mais pas une joie factice, pas une joie provoquée, mais la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu est assis sur le trône et qu'il est extrêmement sérieux? Psaume 2. Le Seigneur rit. Alors si le Seigneur rit, on peut rire nous aussi. Mais c'est tellement fantastique de rechercher Dieu. Je te cherche dans une terre altérée, dira David. Et sans eau, mon âme a soif de toi. Je te pose la question, as-tu soif de Dieu? Vous savez, jusqu'à en crever, j'ai soif de toi. Jésus, où es-tu? Où es-tu? Je veux te rencontrer, je veux te trouver. J'ai un ami, incroyable ce gars. Il est allé en Inde, il a parcouru les déserts du Mexique, même d'Israël. Et crie dans le désert, Dieu, où es-tu? Il rentre à Montauban et Dieu se révèle à lui à Montauban. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouveront. Vous savez, le rôle du diable, c'est de faire zapper tous les principes de sanctification que Dieu nous propose. C'est de zapper tout ce qui nous amène à la mort de nous-mêmes. C'est de zapper tout ce qui va nous amener à sanctifier, à laisser Dieu purifier nos vies. Il va te proposer une visitation du ciel à bon marché. Est-ce que c'est la visitation de Dieu? Question. C'est les gens pieux qui héritent du pays. C'est les passionnés de Dieu qui voient le ciel. Donc j'étais dans cette recherche de la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi le ciel. Je me souviens la première fois que j'ai dit à Jésus, je veux te voir. J'étais à ma salle à manger, à genoux à côté de la porte. On était une vingtaine de jeunes filles. On était encore jeunes avec mon épouse. Et à genoux, j'ai dit, Jésus, je veux te voir. Dans ta gloire. Et j'ouvre les yeux, je sens une présence. J'ouvre mes yeux, il était à ma droite. Debout, il me souriait. Et quand il m'a regardé, j'étais liquéfié. Il y avait une telle distorsion entre la gloire qui était venue me rencontrer et l'homme que j'étais. J'ai supplié le Seigneur comme Pierre, retire-toi de moi, Seigneur. Retire-toi. J'ai cru cramer, je vous l'assure. Je pensais tellement pouvoir recevoir la présence de la gloire de Dieu que je me dis, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'ai compris que le vase que j'étais avait besoin d'être purifié, nettoyé, récuré, transformé, guéri, apaisé. Quand le Seigneur m'a assis à ma place, j'ai traversé l'église. Les gens, ils faisaient un mouvement de recul, je vous mens pas. Ils reculaient. Et quand je leur ai dit, mais pourquoi vous reculez? Et ils m'ont posé la question, mais où as-tu été? Et je leur ai dit, j'ai vu Jésus. Et ils m'ont dit, quand tu es passé devant nous, c'est comme si un rayon laser nous transpercer, un rayon de feu. J'ai dit, j'ai vu Jésus dans sa sainteté, je vous assure, je ne veux pas le revoir comme ça, c'est dans ce que je suis, il y a quelque chose qui est en distorsion avec lui. Et les 15 années qui ont suivi, jusqu'à ce jour, ont été des années où Dieu a purifié le vase, où a nettoyé le vase. J'aime beaucoup ce qui se passe dans le ciel, mais j'aime vivre la présence de Dieu dans le contexte de la parole de Dieu. Et j'ai vu que le monde spirituel était une réalité. Alléluia. Et je disais, Seigneur, je t'ai vu, mais j'aimerais voir tes anges. Et un matin, je lisais ma Bible dans mon salon. Et tout à coup, alors que j'ai un problème de sinusite chronique et je ne sens plus les odeurs depuis des années, tout à coup, un parfum devant moi. D'ailleurs, je ressens ce parfum en ce moment. Un parfum suave, céleste, qui passe devant moi. Je dis, Jésus, tu es là. Je lève les yeux. Il y avait un rocking chair à ma droite, contre la fenêtre dans mon salon. Et il y avait l'ange du Seigneur qui me regardait. Pendant une demi-heure, le parfum est resté. Et après, il s'en est allé. Mais cette expérience-là, de la passion pour Dieu, de la recherche de Dieu, de l'obéissance à sa voix, m'ont permis de vivre ce temps tellement extraordinaire du secours du ciel qui vient dans notre humanité manifester sa grandeur et sa bonté. Et vous savez, dans l'éternité, nous ne serons pas dans des corps aseptisés. Tous nos sens qui ont été... J'ai enseigné ça à une jeune équipe de prophètes il y a deux soirées, avant-hier soir, et je leur disais, mais dans l'éternité, autant nous avons été malmenés dans nos sens et pervertis à cause du péché, autant dans la dimension de la gloire de Dieu, nos sens sont restaurés. C'est pour ça que ceux qui marchent avec Dieu et qui cherchent Dieu vivent des temps où les parfums de la présence de Dieu est là. Je ne sais pas si Colette était là, mais à Nantes, il y a quelques années, on a vécu une école prophétique. J'ai vu l'ange à ma gauche et il répandait des parfums dans la salle. Et je disais aux frères et aux sœurs, vous qui ne croyez pas, qui n'avez jamais senti la présence de Dieu, approchez-vous et venez sentir l'ex. Et j'avais aucun parfum sur moi. Et quand il venait, il se mettait à pleurer. Parce que le ciel était manifesté de façon concrète. C'est pas l'expérience. C'est pas les parfums que je recherche. Mais quand on recherche de Dieu, le ciel s'ouvre. Et ce que nos yeux ne voyaient pas, alors on commence à le voir. Alléluia. Une des dernières choses avant de passer au point suivant, c'est pour vous faire envie. Je raconte ça dans mon dernier livre, Le ciel ouvert. Alléluia. J'ai soumis ce livre à mes amis et aux apôtres de notre équipe parce qu'on travaille dans un contexte d'équipe et d'intersoumission. Et ça, c'est notre sécurité, c'est ma sécurité en tant que prophète. Il y a quelques temps de cela, il y a à peu près 3 ans, à la fin d'une école prophétique, ben vous savez, plus on monte dans la présence de Dieu, plus c'est facile, quoi. Et on était en train d'adorer, j'étais près de la porte de la grande salle dans laquelle on avait notre école, et dans un temps d'adoration, j'étais transporté. J'ai vécu comme un transport dans le ciel. Et j'ai vu une chose que j'avais jamais vue de ma vie. J'ai pas vu les anges, mais j'ai vu les saints. J'ai vu des hommes comme toi et moi. Ils étaient penchés par-dessus, ils étaient une sorte de balcon, et ils regardaient le mystère de la piété en bas. Et quand je les ai vus en train d'adorer, de nous regarder, j'ai dit, mais le ciel peut être extrêmement proche. Et il m'est arrivé dans d'autres circonstances de voir les saints qui adoraient le Seigneur. Ça s'est reproduit à Genève. Alors que je n'ai jamais vu les réformateurs. Une matinée de gloire, où on a été transporté ensemble dans la présence de Dieu. J'ai vu les saints réformateurs, je vous assure, comme je vous vois. Je n'avais pas une théologie, je vous soumets cela, mais je vous assure, quand on cherche Dieu, alors il y a des choses qui nous étaient inconnues et qui nous sont communiquées par la puissance du Saint-Esprit, dans le seul but d'adorer celui qui nous a appelés et qui est fidèle. Alléluia. Vous doutez bien que il ne peut pas y avoir de manifestation de la gloire de Dieu s'il n'y a pas séparation du péché et une mise à part. Alléluia. Vous vous souvenez de ce texte, hein, je ne l'ai pas mis là, mais qu'il se retire, mais si, c'est 2 Timothée 2, 19, qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Autant Dieu n'est pas un Dieu de rigidité, vous comprenez ce que je veux dire? Autant ce n'est pas ton petit copain. Et le ciel de gloire n'est pas un lieu où on va faire n'importe quoi. C'est un lieu de gloire. C'est un lieu où on doit venir avec les souliers enlevés de nos pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, dira Dieu à Josué, vous vous souvenez? Retire les souliers de tes pieds. Moïse, pareil. Alléluia. Mais si tu cherches la présence de Dieu, il va y avoir systématiquement une œuvre du Saint-Esprit en toi. C'est la séparation du péché. Ça ne vous dirait pas de dire, mais vivement la gloire que j'ai plus toutes ces pensées qui nous pourrissent la vie. Hein. Des gens que j'ai en formation, deux jeunes femmes sont venues me voir il y a 15 jours. Elles m'ont dit, il y a des choses, et toutes les deux, pourtant elles étaient passées par un temps de délivrance, il y a des choses qu'on perçoit dans nos vies et dans notre sommeil qu'on ne veut plus percevoir. En termes de pureté. On se sent souillé par certains de nos rêves. Je dis, mais ça, on va le régler. Et on a travaillé sur la famille. Et on a demandé au Seigneur qu'il nous montre où il y a eu des brèches dans les alliances avec les démons d'impureté. On a vu ça, on a détruit cela, on a chassé qui devait être chassé, et ses filles sont restaurées complètement. Alléluia. Qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Dieu est saint. Vous savez que vous êtes saint. Tu es une sainte sœur. Alléluia. Ça vous dérange quand on dit, tu es saint. Oui, tu es saint par vocation, c'est ce que la Bible dit. Tu n'es pas parfait. Mais tu as été sanctifié, tu es devenu saint parce que tu as reçu l'Esprit de Jésus. Tu as en toi la marque de Jésus. Tu es séparé. Donc que ce qui est saint soit sanctifié encore. Je dis rien. Seigneur, sépare-moi. Vous le savez. Vous savez ce qui doit être séparé de vous. Je n'ai pas besoin de vous regarder. Vous le savez, ce qui doit être séparé. Si tu te sépares, la présence de Dieu va devenir plus tangible. Il va y avoir une perception des choses que tu ne vois pas qui vont t'être données dans ta vie. Par amour pour Jésus. Par amour pour Jésus, je veux me séparer. Et vous savez qu'on est sanctifiés les uns par les autres. Hein? Parfois, ça m'est arrivé hein, que des chrétiens viennent me voir et me disent « André, tu m'as blessé. » Je dis « Merci, merci Jésus. Loue le Seigneur d'avoir été blessé. » Si tu as été blessé, c'est pour ta sanctification. C'est pour que tu sois rendu parfaite. Les blessures de l'ami prouvent sa fidélité. Si on te caresse toujours dans le sens du poil, c'est pas des amis ça. L'ami aime en tout temps et il te blesse quand c'est nécessaire. Alléluia. C'est comme ça que tu conçois la présence de Dieu. Nous nous séparons par amour pour Dieu, par amour pour l'Évangile. Nous nous séparons et nous disons à Jésus, Seigneur, fais cette œuvre en moi. Purifie-moi de mes fautes cachées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Quand je vais trop bien, je dis à Jésus, sonde-moi. Dans le quart d'heure qui suit, je suis en larmes. Parce qu'il a mis le doigt là où ça fait mal. Mis à part, vous vous souvenez de dans l'histoire d'Israël, la tribu de Lévi était la tribu de l'attachement, Lévi veut dire attachement, et ils étaient consacrés au service du sanctuaire. Mais dans sa grâce infinie, Dieu permettait à un Israélite d'une autre tribu de venir servir Dieu aussi, comme un Lévite. Et cet homme devait faire le vœu de Nazaréa, vous vous souvenez? Alors il s'abstenait de manger du raisin, se laissait pousser les cheveux, il ne devait pas se raser la barbe, il ne devait pas manger, bien sûr, boire d'alcool, et pendant tout le vœu de son Nazaréen, il était comme un Lévite au service de Dieu. Il était séparé pour Dieu. Et je crois que Dieu a fait de nous, à la fois des Lévites, on en parlera demain matin, et à la fois des gens séparés parce que nous avons choisi de vivre un Nazaréen pour Dieu. Une séparation. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Alléluia. Pour l'amour de Sion, disent, vous vous souvenez, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, on parlera le matin, je ne me tairai pas si je t'oublie Jérusalem. Fantastique. Il y a quelques années, je me trouvais dans un train rempli de militaires. Et après, on va faire un break après cette histoire. Et dans ce train rempli de militaires, il y avait toutes sortes de paroles honteuses qui montaient et je me sentais souillé par les paroles de ces militaires. Et à un moment donné, c'était tellement intense. J'ai dit, soit je quitte le wagon, soit je fais quelque chose parce que le chef, c'est moi. Donc, comme je suis le chef, j'ai crié. J'ai poussé un cri. Ah! Et 60 types sont arrêtés instantanément. c'était pas le cri qui tue, mais c'était un cri de sainteté. Jamais je n'ai repoussé un tel cri. 60 personnes qui étaient en train de blasphémer, de raconter des choses tellement honteuses qu'il m'était impossible de parler ici de ce qu'ils disaient. Mais le cri de sainteté que j'ai poussé a stoppé l'hémorragie, l'hégémonie du diable. Un cri de sainteté. Il fallait oser. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Si tu as reçu l'autorité, alors tu peux pousser un cri. Souvent, je pose la question aux enfants de Dieu et je leur dis, qui commande ici? Et tout le monde répond, c'est Jésus. Non, mais ça, c'est une fuite. C'est pas Jésus qui commande. C'est toi, parce que Jésus est en toi. Mais c'est toi qui dis au diable, jusque-là et pas plus loin. C'est toi qui dis au démon, tu te retires maintenant au nom de Jésus. C'est pas Jésus qui chasse les démons pour toi. C'est toi qui les chasse au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois faible. Qu'est-ce qu'on faisait aux faux prophètes autrefois? On les lapidait. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Tellement de bien-aimés viennent me voir pour me dire je suis mis en minorité dans mon travail. Je dis mais il faut arrêter que tu laisses, de laisser au diable la place qu'il n'a pas. Prends autorité. Prends autorité. Et j'ai des amis qui ont fait ça, y compris dans certaines administrations. Et vous savez, ils m'ont écrit ou téléphoné ou envoyé un mail en me disant c'est moi qui ai autorité. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la passion. Est-ce qu'on peut se lever devant Dieu? Alléluia. Merci pour le réveil de ce qui en nous a besoin d'être réveillé par le Saint-Esprit. Toi, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, Père. Et nous crions à toi pour que ce qui a besoin d'être réveillé alors que nous voulons que l'amour soit réveillé. Parce que c'est le temps où l'Église de France entend cette parole du Cantique des Cantiques. Le temps de chanter est arrivé. L'hiver a cessé, la pluie a cessé, le temps de chanter est arrivé. Alors Seigneur, réveille-nous à cette dimension. Réveille-nous. Et quels sont ceux qui veulent dire cet après-midi, Seigneur, j'ai besoin de vivre ce réveil passionnel pour ton nom dans ma vie. Tu es pas devant moi, tu es devant le Père, tu es devant le Seigneur. Alléluia. Le choix, la parole qui sort de ta bouche, ce qui sort de ton esprit, même si tu ne dis pas à voix haute, elle a la capacité de bouleverser et de changer ta destinée. Alléluia. Je choisis Dieu. Réveille la passion pour ton nom, Seigneur. Je fais rarement des appels ces derniers temps parce que j'aime mieux laisser l'Esprit de Dieu agir. Mais là, je vais faire un appel. Quels sont ceux qui, au milieu de nous, ont besoin vraiment de revivre une dimension passionnelle de la personne de Jésus? Quittez votre place et venez devant, simplement. Je vous invite à crier dans votre esprit. À crier à Dieu pour qu'il bouleverse votre entendement. Que ce qui a comme été éteint en vous soit réveillé, soit ranimé à cause de son nom. À cause de sa gloire. À cause de la destinée à laquelle il vous a appelé. Criez devant Dieu. Peut-être avec, s'il y a besoin de larmes, de cris, allez-y. Ça ne gêne personne, mais que ce soit votre esprit qui crie à Dieu, réveille-moi, ô Dieu. Réveille mon âme, réveille mes affections pour toi. Apprends-moi à pleurer de nouveau d'amour à cause de ton nom, à cause de ta parole, à cause de l'élection de ma vie en toi. Ô Dieu, viens toucher ce qui est dur à moi. Viens toucher ce qui est dur, ce qui ne se soumet pas. Ce qui ne veut pas obéir, viens le toucher cet après-midi. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Par ta grâce, par la grâce seule, par sa grâce seule, non par force, non par puissance, mais par son esprit. Que ta vie, Julie, reçoive cette capacité, que la passion pour Dieu soit réveillée. Oh! Alléluia. Criez dans votre esprit. Appelez. Appelez ce réveil. Appelez ce renouvellement. Appelez des larmes de Dieu. Appelez cette soif. Cette soif de Dieu qui va bouleverser votre existence. Qui va gêner le diable. Qui va faire de vous des héros, la tête et non la queue. C'est fini le temps de rester timoré. C'est le temps du réveil, dit le Seigneur. C'est le temps que tu entres dans l'élection, ce que j'ai préparé par le Saint-Esprit. Oh! Merci pour ta gloire qui est là, ton esprit qui passe, ta main qui passe. Merci de bouleverser les entrailles de cette femme. C'est comme si l'esprit des prophètes, la parole de Dieu va être réveillée en toi. Le désir de proclamer les paroles du Saint-Livre, le désir de voir des hommes et des femmes changer, de voir des adolescents transformés par la puissance de Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous voulons cela. Merci d'être ici. Merci pour cette église d'Aubergenville qui veut voir le royaume de Dieu. Merci pour ce que tu as préparé. Merci, Seigneur, parce que ce qui est préparé est quelque chose de puissant et de glorieux. Merci pour les anges présents qui sont là pour préparer, pour manifester la puissance de ton royaume par le nom de Jésus. Alléluia. Que là où tu as besoin de guérison, tu sois guéri par la puissance de Dieu. Récaché ta romba kamalai. J'appelle le salut sur ta maison. J'appelle le salut sur ta maison. Nous appelons ceux qui sont éloignés, qui pourtant ont entendu la parole de Dieu. J'appelle ces personnes à revenir. Ces enfants à revenir au nom de Jésus. Alléluia, rokoshita wa malayan. Alléluia. Bida karihan. Hélène, je vais t'amener à lire ma parole d'une nouvelle façon. Et la fraîcheur de ma parole va venir comme une eau abondante en toi. Pour que tu dispenses les mystères de la piété dans le cœur de ces enfants. Avec des signes, des prodiges, avec des guérisons surnaturelles. Amen. Au nom de Jésus. D'ailleurs, il y a une personne ici qui souffre, qui a des problèmes au niveau du sommeil. Vous êtes très souvent réveillé. Et parfois, il vous arrive de passer des nuits blanches. Le Seigneur veut vous toucher, vous guérir. Quelle est cette personne qui a des problèmes d'insomnie? Oui? Oui? Avancez-vous. Alléluia. Allez, voyez, le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est aussi la guérison. Allez, on va demander aux anciens de l'église locale de prier. L'onction est sur eux. Voilà. Oh, Rebakashent. Nous restons devant Dieu, devant sa gloire. Je vois plein d'enfants autour de toi. Ils dansent. Tu adores le Seigneur et ils dansent. Et l'onction de guérison les touche et les transforme. Merci Jésus. Je vais renouveler tes forces. Bien-aimé. Colette, je vais renouveler tes forces. Je vais renouveler ta vision. Je vais te permettre de voir comme l'aigle voit dans le ciel. Les hauteurs de Dieu te soient ouvertes, Colette, que tu connaisses la maison du Père, la maison du bien-aimé, la maison de la gloire par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Nous brisons l'esprit d'insomnie, la puissance d'insomnie sur ses bien-aimés, au nom de Jésus. Tout ce qui trouble ton sommeil la nuit, qui te fait mal au ventre à des moments, que ces choses partent maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Roba kasheta wanalayan. Florence, je t'appelle à entrer dans ce nouvel espace de liberté et de gloire. Ce que tu as connu, c'est une bonne chose. Ce que j'ai en réserve est encore meilleur. Mais c'est toi qui fais le pas de foi pour venir et pour me chercher jusqu'à ce que tu me trouves, comme mon serviteur l'a partagé tout à l'heure. Merci pour les grâces cachées, Jésus, que tu as en réserve pour Florence. Merci pour sa destinée de chef de guerre, de combattante de Dieu. Tu es mon bien-aimé Philippe Schmitt. Ma grâce est sur toi et sur ta maison. Philippe, le Seigneur te dit simplement qu'il t'aime. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour lui prouver ton amour. Il t'aime parce que ton cœur est pur et droit devant lui. Alléluia. Tu as prié pour ta maison, pour ta famille. Et tu vas connaître aussi le temps de l'exaucement. Comment tu t'appelles ? Arnaud. Tu as une famille nombreuse ?
Non.
Tu as des frères et sœurs ?
Oui.
Tu es marié ?
Oui.
Tu as des enfants ?
Deux.
Il y a des exaucements au niveau de la famille que Dieu va te donner. Alléluia. Et nous appelons, Père, le salut dans la maison d'Arnaud.
Amen.
Avec puissance, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Merci Jésus. Merci pour le secours du Saint-Esprit. Pour la présence de Dieu.
Alléluia. Le fleuve de Dieu sur toi. Le fleuve et l'eau du Seigneur. Le
fleuve de sa grâce. Alléluia. Oh. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la manifestation de ta puissance. Merci pour la mort qui a été vaincue. Merci pour la déception, la frustration qui est vaincue. Merci pour la vie abondante proposée par le Seigneur que tu vas connaître, ma sœur. Une abondance de bien, de miel, de grâce. Fini la douleur, les larmes. Fini de voir le voleur empiéter sur le champ et l'héritage de Dieu en toi. Au nom de Jésus. C'est un temps de victoire. Béni soit ton nom. Même si je ne prophétise pas sur toi, sers toi. L'onction du Seigneur est ici. Il y a une telle grâce de Dieu. Je sens tellement la grâce de Dieu qui est là. Le Seigneur vous dit qu'il va bouleverser la face de cette église locale. Je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit une parole. Oula! Michel a réagi, et je comprends, mais j'ai vu cette maison qui était trop petite, et j'ai dit, vous allez déménager. Il y a quelque chose de la gloire, de l'intention de Dieu, qui va couvrir non seulement cette ville, mais il va y avoir des ramifications dans Poussy et dans toute Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville. Il y a, à partir d'ici, quelque chose de la gloire de Dieu qui va s'étendre sur cette région. Merci pour ces rassemblements de milliers de personnes qui célèbrent le roi. Alléluia. Merci parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui attires. C'est toi qui transforme, c'est toi qui parle. Merci pour la clé. Oui, le pasteur. Je veux une clé, elle est pour toi. Et pour ton épouse, André. C'est la clé de la maison de David. Et la clé de la maison de David, c'est une clé d'autorité pour ouvrir. Et Dieu vous dit avec Michel que ce que vous allez ouvrir, personne ne pourra fermer. Et ce que vous allez fermer, personne ne pourra ouvrir. C'est une clé d'autorité pour un élargissement de votre ministère commun. Pour le royaume de Dieu, dans cette région, dans cette cité. André, vois grand. Voyez grand. Voyez au-delà de ce que vous pensez pouvoir maîtriser. Voyez au-delà. Voyez dans la dimension de Dieu. Et Dieu va se glorifier en vous et avec vous. Yes, Cori Handa Chantalin.
Alléluia, Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Restons dans cette attitude de la présence du Seigneur, mais on va faire un petit break d'un quart d'heure. On a des boissons aussi qui sont à disposition. Et dans un quart d'heure ou plus tard, on recommence. Amen.
Dès qu'on parle du royaume de Dieu, il y a quelque chose qui vibre en moi. Et alors que je suis fatigué parfois à cause de l'onction qui est libérée, déployée, et le travail que Dieu m'appelle à faire en termes d'intercession. Mais quand on vit des moments comme ça, moi je suis rafraîchi autant que vous. Alléluia. Dans le point suivant, c'est, on est toujours dans la façon de comment entrer dans les clés du réveil, et une des clés du réveil et de l'esprit du réveil, c'est la compassion pour les hommes et le fait de se tourner vers le prochain. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'évangile n'est pas pour nous. Une fois qu'on a été lavé de nos péchés, purifié de nos iniquités, le salut que nous avons, nous devons le faire prospérer. C'est-à-dire, nous devons nous tourner vers les autres. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie en rançon pour plusieurs. La clé du réveil, c'est la compassion. Tous les ministères, écoutez bien, tous les ministères qui ne sont pas basés sur la compassion vont dans le mur. L'honneur, la culture de l'honneur, c'est la culture de l'amour du prochain. C'est ça la vraie culture de l'honneur. C'est aimer tous les hommes, quels qu'ils soient. J'aime raconter qu'une des plus grandes joies que Dieu nous ait fait quand nous étions fiancés avec Sylvie, c'est d'aller prêcher la nuit aux prostituées de la ville de Bordeaux. Et voir une jeune femme, elle s'appelait Michel, nous dire, je veux ouvrir ma vie à Jésus pour être lavé de mes péchés. Moi, j'étais bouleversé, je me suis mis à pleurer à ce moment-là. Mais quand j'ai vu l'amour de Dieu pour cette femme, comment pouvais-je la montrer du doigt? Mes amis, comment croyez-vous que la France peut être sauvée? Elle ne sera sauvée que par des gens qui ont la compassion. Dans la compassion, comme je disais à un frère tout à l'heure, pour la France, voyez ce qui s'est passé hier. Quand j'ai commencé à lire cet événement, mon cœur a été brisé d'un seul coup. Et ce matin, j'ai lu pendant une heure tous les documentaires qui étaient assignés, qui parlaient de ce qui s'est passé hier soir à Paris. Et tout au long de la lecture, mon yeux étaient remplis de larmes. Et je sentais la compassion de Dieu pour le peuple de France et pour cette famille endeuillée. Et c'est ça qui émeut le cœur de Dieu. Toutes les actions de Jésus étaient mues par la compassion. Et je vous assure que notre esprit et notre, ce que je dénonçais tout à l'heure en matière d'hédonisme, mais cet égocentrisme de l'Église qui ramène vers elle l'expérience du royaume est un non-sens. Et c'est une chose que Dieu repousse. Le royaume qui s'est approché de nous doit être communiqué vers l'extérieur. Alléluia. Je n'ai pas reçu la vie pour moi-même, je l'ai reçue pour la distribuer. Et plus tu vas la donner, plus tu vas être régénéré. Plus tu vas la libérer, plus ton cœur va être saisi de la compassion de Dieu. Et plus tu vas voir des miracles. Tous les miracles sont sous-tendus par la compassion. Vous voyez, dans plusieurs épisodes de la vie de Jésus, Jésus est mu de compassion. Devant cette foule sans berger, Jésus est mu de compassion. Parce que cette foule n'a rien à manger. Jésus est mu de compassion de voir la veuve de Naïm avec ce fils qui était mort. Ému de compassion. Quand tu es ému de compassion, quand tu reçois les entrailles de Dieu, à ce moment-là, tu peux être un instrument entre les mains de Dieu pour produire le miracle. Et c'est ma prière ardente de dire à Dieu, mais Seigneur, donne-moi tes entrailles. Donne-moi tes entrailles. Dès que je suis en position de juge, je ne suis plus un avocat. Et comme je juge, je vais être jugé. Jamais Jésus n'a eu une étude pour rendre les hommes coupables. Sauf les pharisiens, hypocrites, qui se servaient de la loi pour asservir les gens, pour dominer. Jésus est venu pour libérer. Alléluia. Et il s'est tourné vers qui? Vers les moins nantis. Vers les pauvres, vers les pécheurs. Je suis bouleversé par la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Ça me bouleverse encore. Femme, où sont tes accusateurs? Nul ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Oh là là. La loi dit que, et moi je dis que, jamais tu auras une réponse à une intercession qui est une intercession de jugement ou de condamnation. Je crois que l'esprit de réveil va nous animer lorsque nous allons être saisis de compassion pour le gouvernement français. J'ai prié de tout mon être avec larmes parfois pour le président, l'ancien président Sarkozy, je vous assure. Malgré toutes ses bêtises et ses erreurs et ses gageux et son orgueil, j'ai aimé cet homme. J'ai crié à lui. Et vous savez, il y a une ouverture qui est en train de se faire dans sa vie. Moi, je ne prie jamais pour prier. Je prie pour qu'il y ait un fruit à ma prière. Alléluia. Et je demande à Dieu de mettre à moi ses entrailles. On en parlera demain. La capacité de s'aligner avec le ciel pour comprendre le cœur de Dieu et pour l'amener sur la terre. Alléluia. Quand Dieu m'a appelé pour servir dans l'intercession, je partage ça un petit peu dans mon deuxième livre sur la vie prophétique, comment vivre dans l'onction. En fait, je me souviens donc, je viens d'une famille politiquement de droite, ou centre, oui, de droite. Mon père était plus à droite qu'au centre. Et donc j'ai eu cet héritage-là, avec ses bonnes choses et les moins bonnes. Et en 81, le gouvernement français a viré à gauche, ça c'était terrible pour moi. C'était la fin du monde, hein. J'avais des bouteilles de Bordeaux chez moi, on m'avait tellement monté la tête, et les rouges vont tout nous prendre. Il faut tout boire, les bouteilles de Bordeaux, donc en 2 mois on a bu toutes les bouteilles de Bordeaux dans la cave. C'était un mauvais prétexte. Mais je me souviens, quand Dieu m'a dit, je dois intercéder pour la France et pour son gouvernement, j'ai dit, Seigneur, je les aime pas. Et Dieu m'a dit, mais moi je les aime. Et à ce moment-là, j'ai compris le besoin d'être saisi de compassion. J'ai dit, mais je n'ai pas de compassion pour ce monsieur Mitterrand. Vous savez, j'ai bonne espérance de le retrouver dans le royaume de Dieu. Je vous assure. Il y a une telle somme de prières qui est montée devant Dieu en faveur de monsieur Mitterrand, François Mitterrand. Donc quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, mais moi, mets à moi tes entrailles et ton amour, parce qu'il n'y est pas, je n'ai pas de compassion. Quand j'ai commencé à prier, ma culture a changé. Quand j'ai commencé à aligner ma prière sur la dimension du ciel, quand j'ai prié avec les entrailles de Jésus pour cet homme, vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à aimer cet homme et à le défendre. Et un jour, je me souviens encore, débat politique à table, chez moi, et je me mets à prendre la défense de mon père. Mon père, il me regarde, il était ahuri. Qu'est-ce qui se passe, André? Si nous voulons voir le pays changer, il va falloir qu'on aligne son cœur dans la dimension de compassion de Dieu. Et à ce moment-là, on va voir des miracles, des signes et des prodiges. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain, comme toi-même, le musulman du coin, Dieu l'aime passionnément. Vous avez vu Daesh, ce qu'il a fait hier soir? Ah ben, je vous raconte une histoire d'un gars de Daesh. Vous savez que l'armée syrienne, depuis quelque temps, a repris plus ou moins l'avantage. Et ils ont pu reconquérir un village qui était aux mains des djihadistes, et ils ont tous été tués. Et il y a un jeune djihadiste qui était là, étendu par terre, mort. Et il y avait une église copte à côté du village. Ça vient de se passer. Et le responsable copte a dit, nous ne pouvons pas laisser un homme sans sépulture, c'est un être humain. C'est beau, hein? Alors ils sont descendus à plusieurs, ils ont pris cet homme et ils l'ont ramené vers l'église. Et quand ils l'ont ramené, le gars est ressuscité. Le gars est revenu à la vie. Il était troué de partout. Le gars qui revient à la vie. En 3 jours, les blessures ont été totalement guéries. 3 jours. Et cet homme raconte. Il a dit, quand je suis mort, j'ai vu, je quittais mon port, mon corps, je suis monté et j'ai rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit, tu n'es pas sur la bonne voie pour l'éternité avec moi. Redescends. Et le gars, aujourd'hui, est un serviteur de Dieu. Et ça vient de se passer. Qui enverrai-je? Vous souvenez, Ésaïe 6. Et qui ira pour moi? Vous souvenez du dictateur irakien? Vous souvenez? J'ai pleuré devant Dieu pour son salut. Vous voyez, si on retrouve M. Saddam Hussein dans le royaume éternel, ça serait quand même quelque chose. Mais j'aurais été de ceux qui ont intercédé pour lui à cause du nom de Jésus. Alléluia. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous font du tort. Le royaume de ce monde est passé à notre Dieu. Nous sommes dans une autre dimension. Si Christ est en nous, alors nous pouvons nous aligner avec le ciel. Et être saisi de compassion comme Jésus l'a été. C'est ça l'esprit de réveil. Il n'y a plus de fraction, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. On aime les hommes qui sont faits à la ressemblance de Dieu. On aime les pécheurs, on aime les terroristes. Une jeune arabe de notre église locale qui a un ministère d'intercession et une maison de prière au sein de notre église locale, elle s'appelle Jamila, je l'aime énormément. Elle nous disait, j'étais dans une rencontre, dans une conférence en Israël avec des centaines ou des milliers de juifs et d'arabes qui ont loué Dieu ensemble. Et elle me disait, tu sais, à chaque intervention d'un serviteur de Dieu syrien, il priait, nous allons commencer à prier pour Daesh. Il commence là, son intervention en priant pour Daesh. Et puis après, il raconte cette histoire. Si nous avons la compassion de Dieu, nous allons être amenés à prier pour des choses qui nous semblent impossibles. Et il y a eu tellement de miracles lorsque des gens ont été saisis de compassion pendant l'époque maoïste, où il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de morts commanditées par la doctrine de Mao. On raconte que deux soldats entrent dans une maison chrétienne. Et une femme est là avec ses deux fils, je crois une veuve en plus. Et le soldat rouge communiste, il tire sur le fils aîné, il tire sur le cadet. Il les tue tous les deux. Et la femme se met à pleurer. Elle va vers cet homme, elle le prend dans ses bras. Et elle dit, maintenant, c'est toi qui vas devenir mon fils. Elle commence à prier pour lui, l'homme. Bouleversé, transformé. Et il change d'assassin. Il devient serviteur de Dieu. Jusqu'où l'amour peut aller? Vous savez, ce qui ramène et qui renouvelle la grâce de Dieu dans ma vie, c'est de réaliser le poids et le prix que Jésus a payé pour me sauver. Et hier, on en parlait avec Sylvie, je ne sais pas si dans l'avion ou avant l'avion, mais la joie de savoir que Jésus nous a sauvés quand on était tellement sales, tellement dégoûtants. Tu es peut-être bien, toi, mais moi je sais qui j'étais. J'étais tellement sale. Et voir le prix de Jésus, l'amour qu'il a eu pour moi, pour me sauver, la compassion qu'il a libérée. J'ai envie de vivre sa compassion. Et c'est ça, une des clés du réveil. Alléluia. L'amour de Dieu et la compassion pour les hommes nous détournent de nous-mêmes. On est plus centré sur nous-mêmes. Le rôle de l'Église, ce n'est pas encore de faire du centrage sur elle-même. C'est de se tourner vers l'extérieur pour répandre la bonne nouvelle du salut et de l'Évangile. Et d'entrer dans les œuvres du royaume, œuvres sociales, œuvres caritatives, bouleverser notre environnement, amener le royaume. Je vais en parler tout à l'heure, je vous raconte une histoire incroyable qui m'est arrivée avec Jeannot, là. Vous connaissez Jean, hein. C'est votre vis-à-vis, alléluia. Le point suivant, c'est, et ça c'est important, c'est avoir un esprit novateur, c'est l'esprit des prophètes, ou avoir des rêves. Acte 26, 19. Ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Paul avait un esprit qui allait au-delà des frontières. Vous vous souvenez? Il faut que je voie Rome. Il faut que j'aille aussi en Espagne. Il ne se contentait pas de ce qu'il voyait. Et c'est ça qui va faire la différence. L'esprit de réveil, il t'amène dans des rêves insensés. Et il y a que les passionnés qui vont oser aller dans des rêves insensés. En 81, vous savez, quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu vas lever des écoles prophétiques dans ce pays. Tu vas reconstruire des hôtels prophétiques. Alors j'étais animé d'une grande joie. Et à la fois, je voyais mon insuffisance, mon incapacité. L'adversaire venait et me disait, mais tu ne sais pas prêcher à des enfants, tu veux parler avec des adultes. Mais tu te prends pour qui? Mais tu es un prototype. L'Éternel est puissant au milieu de moi. Alléluia. Seigneur, tu nous dis que la crainte de ton nom, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu m'a accordé la sagesse. J'ai pu me tenir devant des autorités, devant des gouverneurs. Et j'ai vu certaines de ces personnes donner leur vie à Jésus. Par une parole de Dieu inspirée ou révélée. Alléluia. Mais les rêves qui sont là, ils prennent du temps, mais ils s'accomplissent. En 81, Dieu me parle. Vous savez, moi je suis un impulsif, hein, colérique. Je me lève, je commence. Dieu me dit, c'est pas le temps. J'ai une vision, je vois une partition de musique barrée comme ça. Et je vois voir les frères et sœurs, je dis, bon, ils vont peut-être m'expliquer. Et je leur dis, voilà le rêve que j'ai en moi. Ils ont rien répondu, ni oui, ni non. J'ai dit, ils sont jaloux, quoi. Et ça a capoté. Le rêve de Dieu a capoté. Le rêve de Dieu n'est pas mort, mais moi je suis mort. 14 ans. En 95, quand moi j'avais rendu les armes, quand j'étais dans cette capacité de suivre Jésus, d'obéir à sa voix, il m'a dit, vous savez, une parole de Dieu, il m'a dit, maintenant, je rangeais mon bois, un coup de canon, Dieu qui me parle, il m'a pas parlé souvent, hein. Maintenant, j'ai cru que le ciel tombait sur la terre. J'étais visité à la tête aux pieds, j'ai arrêté de trembler, je me suis mis à trembler, c'était Dieu qui me parlait, maintenant. Et vous savez, avec maintenant, il y avait tout le décor planté. Si tu as un rêve, hein, Dieu va te dire, voilà le rêve, et il va te dire, quand est-ce que sera le maintenant? Mais entre le temps où il te parle et l'incarnation du projet de Dieu, il peut se passer une décennie. Et là, c'est la formation. C'est l'école de Dieu, c'est l'école du maître. Mais si c'est le rêve de Dieu, il va s'accomplir. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Ose rêver. Alléluia. Ose rêver à des choses qui sont au-delà de tes capacités. On prend l'avion avec Sylvie, ça fait, bon, on était à Paris il y a 15 jours, hein. On est ici aujourd'hui, la semaine prochaine, on est à Guebwiller, au fin fond des Vosges. On atterrit à Bâle, là-bas. Bâle-Mulhouse. Et quand j'étais enfant, j'avais tellement peur des avions. Jamais je mettrais le pied là-dedans. Moi, j'ai peur du vide. Je suis un trouillard de première. Vous assurez? Moi, je suis un peureux. Vous téléphonez, c'est ma femme qui répond. Hein. J'ai dit, moi, je réponds pas. Mais je peux vous dire une chose, l'évangile, elle m'a rendu courageux. Par nature humaine, je suis faible. Est-ce que tu es faible? Mais t'inquiète pas, moi aussi. J'ai peur de tout. Mais quand l'esprit me saisit, je peux vous dire, c'est moi le chef. Alléluia. Et j'ai envie de vous dire, avec ce que Dieu vous a dit tout à l'heure, vous savez, je ne l'ai pas menté. Il faut le marquer, il faudra le soumettre à Jean, je vais y en parler d'ailleurs. Il vous a, tu sais, Jean, tu vas voir, tu as été un drôle de truc là. C'est trop petit. J'ai vu des milliers. En esprit, je les ai vus. Quand je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait cette église va générer quelque chose de puissant pour la gloire du nom de Dieu. Ce n'est pas pour vous-même, c'est pour sa gloire. Voyez-vous, des dizaines de milliers de gens de Mende qui vont venir là pour recevoir le salut, Mende à la Jolie, même Paris, Intramuros, qui vont se déplacer. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu sera tellement tangible au milieu de vous. Florence, prépare-toi. Hein. Donc on va prier tout à l'heure pour que l'esprit novateur soit réveillé en vous. Alléluia. L'autre point important, c'est être dans la dynamique de l'esprit. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des incirconcis, mais comme des sages, insensés, pardon. Arrachez le temps car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, version Darby, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ne vous énervez pas de l'insensé, de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entendez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez grâce continuellement pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça ne veut pas dire que le vin nous est interdit. Ça veut dire de ne pas s'enivrer de vin. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Alléluia. Moi, je suis un fervent adepte du parler en langue. dont j'enseigne régulièrement sur la nécessité de nous entretenir et de commencer la journée en parlant en langue. Quand je parle en langue, l'apôtre dit que je m'édifie moi-même. Je rends d'excellentes actions de grâce. Je suis en train de décrire les mystères de Dieu. C'est ça que l'apôtre nous dit. Alors je vous pose la question, pourquoi vous priez-vous de parler en langue, français que vous êtes? Quand j'ai besoin d'une révélation, et ça m'arrive tellement souvent, quand je rencontre une personne, je commence toujours par un temps, même court, de parler en langue, parce que j'ai besoin de me situer dans la présence de Dieu. Il nous faut pratiquer le parler en langue parce que c'est la porte qui ouvre toutes les autres portes. Et j'aimerais vous encourager, notamment dans les temps d'adoration, de louange, comme tout à l'heure, avoir des temps, alors je m'adresse au chantre prophétique de l'Église. Prenez du temps pour adorer Dieu en esprit, en langue. Et chantez ce que Dieu est en train de dire au travers de votre esprit et de votre parler en langue. Pendant le temps, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi je chantais la nouvelle création. Je chantais la nouvelle terre, ça fait deux ou trois fois que ça m'arrive, régulièrement, je chante la nouvelle création. Je peux vous dire, j'étais inspiré, j'étais rempli de la présence de Dieu. Une terre, je chantais, où il n'y aura plus de larmes, où on sera consolé, où il n'y aura plus de mort. J'étais dans une pensée à ce qui s'était passé à Paris cette nuit. Je chantais l'espérance de Dieu, chantais en langue, interprétais, chantais en esprit. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. C'est ça. Alors les chantres, allez-y. Et quand il y a un chant qui monte comme ça, inspiré par l'Esprit, eh bien écoutez ce que le Seigneur dit par la puissance de son nom. Pour sa gloire, alléluia. Un autre point, on avance parce que le temps passe. La joie du Seigneur, Ésaïe 56, j'ai plus le verset 26, je crois. Je les réjouirai dans ma maison de prière. La joie du Seigneur, votre force. Alléluia. Et vous, donc c'est l'apôtre, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez reçu la parole dans de grandes souffrances avec la joie donnée par l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, le témoignage de cette femme malade à 7, on était avec Jean. Donc, Jean que vous connaissez, Jean Brunet. On l'appelle le marchand d'orange. C'est un ami bien-aimé que j'aime beaucoup. Après, Rensé, il y en a qui étaient à Rensé à Montpellier, hein, Florence, et puis quelques-unes là, voilà. Ah oui, certains nous disent qu'on est, ils pensent qu'on est frères avec Jean. Pas du tout, hein. Dans lui, il est de 7, moi je suis né à Nérac. C'est pas la même région. Mais il m'a dit, je vais te faire connaître le lieu où j'ai grandi, vécu, où Brassens, mon cousin était, etc. Je dis, ah, ça m'intéresse. Alors il me dit, on va coucher à l'appartement à 7. Il dit, mais c'est bien, ça nous fera une halte comme ça pour notre voyage de retour vers chez nous. Et puis il me dit, je vais t'amener à un restaurant de poisson. Ah, j'ai dit, ça, tu me combles, Jean. Alors, on arrive dans le restaurant de poisson, vous voyez, on peut être chrétien et manger dans un beau restaurant de poisson, alors au bord du port, on s'installe, on rentre, on s'installe, le patron arrive, il fait la bise à tout le monde. Je dis, ah, mais ça alors? Il amasse tout le monde comme du pain tendre, et Jean, je suis heureux de te voir, et salut Isabelle, et puis il me présente, voilà, un pasteur de mes amis, André, bonjour Sylvie, il fait la bise. Et puis voilà, il arrive avec une bouteille de champagne, il nous sert le champagne à tous, il dit, ça c'est ma tournée. Oh, mais je dis, ça commence bien le restaurant à 7. Moi, je trouvais que, parfois je dis, la mission, ça a du bon, mais c'est vrai, Dieu me surprend. Moi, j'aime les bulles, donc j'étais ravi. Et puis voilà qu'il nous amène un plat de poisson, je ne vous mens pas.
La table, il tenait la table en largeur.
Il y avait au moins 5 variétés de poissons, avec des gambas et tout ce qui s'est. Alors ça, j'adore, on ne devrait pas le dire dans la maison de Dieu. Mais si, j'aime. J'aime tellement. Et alors, toutes les trois bouchées, je disais, mais que c'est bon. Tout le restaurant entendait. Et moi, j'étais à mon triple avec le poisson et le bon vin qu'on avait commandé à un Sancerre. Excellent. Et je disais, oh, que c'est bon. Il y a une dame à côté qui n'en peut plus. Elle avait un foulard, elle était malade. Jean m'a dit, elle est malade. Et nous, on était tellement heureux, on était dans la présence de Dieu. Et on amenait la présence de Dieu dans ce restaurant. Et cette dame qui est malade, elle m'apostrophe, elle me dit, monsieur, pourquoi y a-t-il une telle joie en vous? Je me suis arrêté, je l'ai regardé, j'ai dit, madame, laissez-moi finir mon poisson. Et je vous dirai pourquoi. Il y a une telle joie en moi et en nous. Cette femme, elle était dans une attente incroyable. Quoi. Vous savez, c'est vraiment la personne qui cherchait le Seigneur et qui le rencontre au travers de nous. Et à la fin du repas, en une minute, je lui annonce Jésus, je lui dis ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je lui dis pourquoi, autrefois, alors que j'étais dans les ténèbres et avait des pensées suicidaires, comment le royaume de Dieu s'était approché de moi et avait bouleversé ma vie. Et je lui dis, madame, vous êtes malade, on peut invoquer le nom de Jésus. Et elle me dit, vous savez qu'il faut qu'il se dépêche. Hein. Elle était en fait au bout. Et je lui dis, vous me permettez de prier pour vous, madame? Elle me dit oui. Elle pensait que j'allais prier chez moi. Elle me dit, vous êtes bien aimable. Je lui dis, mais je vais prier tout de suite, madame. Et avant qu'elle me donne la réponse, je lui prends la main. Et je commence à prier pour elle. Et je sens une main sur mon genou droit. Et j'ouvre les yeux. Ma prière, c'était la main de Jean qui me touchait le genou. Et il me dit, pour la communication de l'onction. Si vous aviez vu le visage de cette dame quand on a eu fini de prier, le ciel était là, dans ce restaurant, à la table de cette dame, de son mari qui était bouche bée. Ils nous ont remercié 100 fois. Un moment d'éternité. Mais la chose qui m'a le plus interpellé, c'est cette dame qui a vu notre joie. Pourquoi y a-t-il une telle joie en vous, monsieur? Parce que Jésus a rempli ma vie de bonheur et de grâce. Alléluia. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Alléluia. Vous avez entendu parler des maisons de prière qui se lèvent un peu partout? Ce n'est pas un truc à la mode, hein. C'est un mouvement de Dieu. Instauré par Dieu, partout, dans pratiquement toutes les villes, on trouve des maisons de prière, des lieux où tous les croyants de toute confession, y compris des catholiques, peuvent venir pour louer, adorer et annoncer le royaume de Dieu qui vient. Alléluia. Et le Seigneur dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Et parfois je dis aux chrétiens, arrêtez de faire ces têtes d'enterrement. Vous connaissez Jean? Je vous raconte une histoire de lui. Jean a été pasteur. Vous ne lui direz pas, hein? Si tu veux lui dire. Il était pasteur réformé évangélique. Donc, il avait la robe et tout, ce qui s'en suit. Parfois je lui dis, j'aimerais te voir en robe, ça va être sympa. Voir Jean en robe, donc. Et un jour, il raconte la chose suivante. Il était en train de servir la Sainte Seine. Et il voit tous les visages de ses paroissiens avec une mine d'enterrement. Vous savez ce qu'a fait Jean? Il a dit à chacun de ses paroissiens, sincère condoléance. Sincère condoléance. Le conseil à la fin, qu'il se réunit, le conseil réformé, qu'il appelle, il dit, Jean, es-tu devenu fou? Et il leur dit, mais vous avez vu votre enterrement, là? Moi, j'aime quand le peuple de Dieu rit. Vous riez, c'est bien que vous puissiez rire. Mais la maison de Dieu, c'est la maison de la joie. Là, c'est la maison du vin. C'est la maison de la joie. C'est pas la bénédiction de Toronto. Ça m'énerve quand on parle de la bénédiction de Toronto. Mais bien sûr, il y a eu une révélation. Mais 15 ans avant Toronto, nous, on a vécu ça, et Philippe. J'étais ivre de vin à me rouler par terre. Ma femme, elle n'a pas été à Toronto. Elle était allée à Cévennes, à un camp qui s'appelait le camp des Aiglons. Il y avait 50 enfants qui étaient là. Je vais pour chercher ma femme, je ne savais pas ce qui se passait. Je la trouve sous la tente, ivre morte avec les enfants, couchés par terre. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ma femme? J'avais vu ma femme dans un tel état d'ébriété. La joie du Seigneur était là dans son esprit et dans son cœur. Alléluia. On a besoin de retrouver dans la maison de prière la joie du Seigneur. Le bonheur d'être chrétien. Le bonheur d'être un peu hilar et parfois même un peu expressif, ça déborde. Vous savez, ça va gêner les religieux, la joie. Mais ceux qui sont en Christ, ça va pas les gêner. Ils vont avoir soif de Dieu, plus de Dieu. Alléluia. Il y a 2 ans, à la fin d'une école, c'était il y a 2 ans, oui. À la fin d'une école, Alexis Sédèque, je clôturais un temps. Et puis j'ai prêché sur l'esprit du lion de Juda, celui qui dévore. Et à un moment donné, je sais pas ce qui me prend. Je lâche un truc comme ça. Soyez remplis de l'esprit du lion de Juda. Les 50 bonhommes par terre. Tous tombent par terre. Et ils se mettent à rugir. Et quand ils sont mis à rugir, là, l'esprit de joie est venu au milieu de nous. Pendant 3 quarts d'heure, j'ai jamais vu ça de ma vie. 50 personnes ivres du Saint-Esprit. J'ai dit, mais à la Pentecôte, ça devait être épique, mes amis. Ça devait être épique. Donc, on pensait qu'ils étaient très raisonnables. Et les frères, non, ils n'étaient pas raisonnables. Ils étaient ronds comme des manches à balai. Quand ils sont sortis de la salle à Pentecôte, ils étaient tellement ivres morts du Saint-Esprit que les païens ont dit, mais ils sont pleins de vin doux. Vous savez ce qui empêche la visitation du Saint-Esprit ? C'est le rationalisme. C'est le raisonnement. C'est la peur de se couvrir de ridicule. Jésus, fais ce que tu veux. T'as pas besoin d'une petite visitation de joie ce soir-là. Ça va te changer des larmes que tu verses. Cette dame a été saisie, elle n'a pas été saisie par mon sérieux, elle a été saisie par ma joie. Soyez remplis de l'esprit et de joie. Alléluia. Vous êtes appelés à connaître du bonheur et la grâce. C'était le vœu de David à la fin de son chapitre, du psaume 23, vous vous souvenez, le bonheur, ça se voit, le bonheur, ça s'entend. Parfois, des gens viennent me voir et me disent, mais quand on est à côté de toi, André, tout nous paraît possible. Ils éclatent de rire. Ben, si tu étais à côté de Jésus, tout est possible. Même de ressusciter un mort. Amen. Allez, dites-le avec moi. Seigneur, remplis-moi de ta joie. Fais-moi connaître une nouvelle dimension de ta présence. Je veux être réjoui dans la maison de prière. Par le nom de Jésus. Amen. Moi, je vous dis pas là, je suis bien. Béni soit Dieu. Le point suivant, c'est l'unité de la foi. Alléluia. Une clé du réveil, c'est l'unité de la foi. C'est le rassemblement en un seul corps des enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Jean 17, vous connaissez ce passage magnifique, 21-22. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé, et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Écoutez bien, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Et vous savez, la gloire ça se voit. La gloire ça se voit. Quand l'onction de gloire est sur une personne, on doit la voir. Alléluia. Et la dimension du royaume de Dieu, c'est l'unité. C'est l'effondrement des clôtures et des clivages qui nous séparent. Qui séparent les hommes et les femmes. Vous connaissez Galates, hein? Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ni juif, ni grec. Ni circoncis, ni incirconcis. Mais nous sommes un en Jésus-Christ. Alors les frontières que l'homme a placées pour dominer en Christ, elles sont appelées à sauter. Alors on ne va pas amener un mouvement de réaction par rapport à l'homme, mais on veut vivre la plénitude de la parole de Dieu et de l'évangile. Et le royaume de Dieu, c'est la dimension de dignité et d'égalité entre l'homme et la femme. La façon dont les textes ont été traduits parfois ont induit en erreur des générations de croyants. Par exemple, l'homme est le chef de la femme. Le chef, dans l'étymologie du grec, là, veut dire il est la source. Il n'est pas le chef en tant qu'autorité, il est la source, celui qui libère la vie. Comme Dieu donne la vie dans le Fils. Alléluia. Dieu est la source du Fils. André est la source de Michel. C'est pas beau ça? Ça change le terme de chef. Hein? Les mots en français sont pipés. Et je vous assure que l'unité de la foi, c'est une dimension de communion qu'on va retrouver ensemble. Alléluia. Et il n'y aura plus de séparation. En Christ, il n'y a plus de séparation. Alléluia. C'est pour ça qu'on va voir des femmes monter comme pasteurs. Et nous, on a établi des femmes pasteurs, apôtres et prophètes. Il y a une dimension culturelle qui doit être revue et corrigée par le Saint-Esprit. Et on est tous affectés par la pollution de la culture. Alléluia. Quand vous voyez Jésus, comment le comportement qu'il avait avec les personnes qu'il rencontrait. Je vous pose une question. Vous êtes des érudits, vous allez me répondre. Qui assistait Jésus de ses biens? Des femmes. À l'époque, c'était mal vu. Une femme ne pouvait pas être disciple. Elle ne pouvait pas être à l'écoute d'un rabbin. Pourquoi Jésus va réprimander Marthe? On a dit n'importe quoi sur ce passage. Marthe, tu t'inquiètes bien des services, mais Marie a choisi la bonne part. Pourquoi Marthe est en réaction? Parce que sa sœur Marie est dans la position du disciple qui écoute le maître. Et c'est inconvenant pour un juif qu'une femme soit dans une école de rabbin. Et Jésus enseigne Marie, alléluia. Et il donne une démonstration magistrale à Marthe. Il dit, tu t'inquiètes, mais Marie a choisi la bonne part, qui ne sera pas ôtée. En tant que femme, tu vas être disciple et un ministère du royaume, comme elle est un homme. Alléluia. Allez sur Internet et écoutez la prédication de Jean, de Jean-Marc, sur le ministère que Dieu est en train de rétablir. Alléluia. Ça fait partie de la dimension de l'unité de la foi. Il y a une hypocrisie, un mensonge dans la maison de Dieu. Mais c'est terrible. Pourquoi une femme pouvait enseigner les enfants et pas pouvoir prêcher à l'église? Mais dites-moi, c'est une hypocrisie lamentable. De quel droit, si une femme a reçu l'onction, pouvons-nous l'empêcher d'exercer la magistrature, le mandat de ministère que Dieu a mis dans sa vie? De quel droit? Vous comprenez que ça veut dire que aussi notre comportement, et là je m'adresse aux hommes de cette assemblée, notre comportement et notre relation avec notre épouse est certainement appelé à changer. Je crois réellement et sincèrement qu'en tant qu'homme, moi je me suis repenti de mon comportement en tant qu'homme, en tant que mari, vis-à-vis de ma femme. Ma femme, ce n'est pas une subalterne. Ma femme, c'est mon ego. C'est mon vis-à-vis. C'est un ministère qui a tellement semé et bénis ma vie. Souvent je lui dis, mais qu'est-ce que je serais sans toi, ma chérie? C'est tellement beau de savoir qu'elle est à la même, devant Dieu, elle est à la même hauteur que moi. Nous avons des responsabilités différentes. Alléluia. Saint-Esprit vient guérir la France. Vient nous guérir dans notre culture et dans tous les enseignements erronés qui nous amenaient à dominer au lieu de libérer. Femme de Dieu, de cette assemblée, soyez libérée pour exercer le mandat que Dieu vous a donné. Alléluia. Si vous regardez la fin des épîtres de Paul, et parfois comment il s'est adressé aux églises, il fait mention des équipes qu'il avait. Et ici, dans le premier qui? Des femmes. Dans l'équipe apostolique. Chunia, c'était un apôtre, c'était une femme. Priscille était dans l'équipe apostolique et c'était une femme. Et elle est citée avant Aquilas. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez bien fait de m'inviter. Hein. L'unité de la foi. L'unité de la foi. Quand nous venons ensemble devant Dieu, mais quelle force! Quelle force! Moi, j'ai souvent des femmes, tu vaux 10 hommes. Moi, je reconnais les femmes, elles valent 10 hommes. Hein. Femme qui obéit au Saint-Esprit, je vous assure, ça dégage. Waouh. Alors c'est bon, moi j'ai fait cette démarche, j'ai écrit ça dans mon livre, partiellement. J'ai demandé pardon à genoux à ma femme pour le dominateur et l'homme, l'exacteur que j'ai été, le pharisien que j'ai été. Je me suis mis à genoux devant chacun de mes enfants pour leur demander pardon pour le père que j'ai été, comment j'ai dominé sur mes enfants. Mon Jérémy, je me souviens, il ne supportait pas que je sois à genoux devant lui. Il pleurait à chaud de larmes. Il disait, papa, relève-toi. Il supportait pas. Je dis, mais Jérémy, il faut que je te rende justice. Bénis-moi. Et libère-moi du poids que j'ai fait porter sur ta vie. C'était le père pleurait, le fils pleurait, on s'est pris dans les bras. C'était J'ai fait de mes fils mes amis. Vous entendez, mes fils sont mes amis. Alléluia. Alléluia. Je ne voudrais pas trop prolonger parce qu'on a vu tellement de choses dans cette journée. Peut-être vous partager un dernier point avec vous. C'est, ça va avec la dimension de la joie, c'est retrouver un esprit de prière. Acte 4, 31. Alléluia. Sans la prière, vous le savez, on ne fait rien. Retrouver un esprit de prière, c'est retrouver la dimension que les apôtres ont vécue en termes de pénétration dans le monde spirituel. Et je reparlerai aussi demain, mais la prière et l'esprit de prière doit être associé à la louange et à l'adoration. Il y a une distorsion entre le chant et la prière. Et il nous faut rassembler les deux. Les plus grandes visitations de nuits de prière que j'ai vécues dans ces derniers temps, ou des moments de prière bénis et oints, c'est lorsqu'on a mêlé l'intercession avec la louange et la proclamation. C'est décapant, mes amis. Et retrouver un esprit de prière, c'est reprier d'une façon, entendre les prières, la prière qui sort du cœur de Dieu. Entendre ce que proclament les anges. Il y a une prière soutenue dans le ciel. Et notre rôle, c'est d'entendre comment les choses sont dites dans le ciel pour les retransmettre sur la terre. Et là, ça change tout. Un jour, Dieu a dit, et je l'ai lu ailleurs aussi, « Je n'accomplirai en toi que les prières qui sont issues de moi. » T'entends ? « Je n'accomplirai en toi que les prières qui sont issues de moi. » C'est-à-dire, si tu t'alignes avec la prière d'en haut, à ce moment-là, tu vas avoir du résultat sur la terre. Donc, ce n'est pas une prière qui est tournée vers nous, vous comprenez ? Il faut arrêter de tourner nos prières vers nous, il faut tourner nos prières vers ceux qui sont morts. Alléluia. On proclame la justice, on annonce le royaume de Dieu, et dans les temps où vous êtes en train d'adorer, priez mes amis, proclamez, allez-y les chantres. Invitez les chrétiens à avoir un temps de proclamation, déclarer l'intention de Dieu pour cette ville, pour vos amis, pour vos voisins, pour le monde musulman. Déclarer l'intention de Dieu, alléluia. Retrouver une capacité, une force qui vient d'en haut. Il y a une jeune fille qui fait partie des jeunes gens que je forme, elle est toute menue, mais alors quand l'Esprit de Dieu s'empare d'elle, je ne vous dis pas, ça décoiffe. Et l'autre soir, on était en train de travailler sur le discernement des esprits. Et j'ai fait tout un enseignement sur les intimidations du diable. Comment le diable fait pour nous arrêter dans notre travail, dans notre destinée pour le royaume. Et puis j'ai invité les bien-aimés. J'avais dit maintenant, nous allons vivre un temps de prière dans la présence de Dieu. Elle a commencé à déclarer l'intention de Dieu. Et tout d'un coup, j'entends cette jeune fille se mettre à prier. Mais c'était un cri. Alors une femme comme ça menue, vous savez, vous n'en savez absolument pas qu'elle prie avec autant de force. Saisie par les entrailles de Dieu, elle se met à prier une prière d'autorité. Moi j'étais rempli de joie et de rire. C'était tellement, tellement particulier. Et j'ai dit, Seigneur, mais exauce la prière de ta bien-aimée, c'est trop beau. Quoi. Alléluia. Et ça, c'est notre destinée. Voir les cieux de nouveau ébranlés. Voir la manifestation du royaume venir. Alléluia. On parlait de la reine, c'était avec nos amis Michel et André. On parlait de la reine Marie d'Écosse. Vous savez ce qu'elle disait, elle déclarait. C'était à cause du réformateur John Clark, ça l'avait fait enfermer en prison. Elle lui interdisait de prier. Et elle disait à des ministères étrangers, elle disait, je crains plus les prières de John Knox que toutes les armées d'Europe réunies, ou d'Angleterre, ou du Royaume-Uni réunies. Et je me dis, mais si cet homme avait une telle percée dans le monde spirituel, au point qu'une reine ait peur de la prière d'un homme, je me dis, mais à votre raison, nous qui sommes aussi remplis du Saint-Esprit ensemble, quelle force nous avons de pénétration en faveur du royaume de Dieu. Je vais vous dire une chose, l'enfer tremble de peur comme les Africains chantent. Quand je loue le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Je peux vous assurer que les puissances de ce lieu, en ce moment, à cause de ce que vous êtes en train de vivre, elles sont ébranlées. C'est pas moi qui les ébranle, mais c'est notre prière ardente ensemble, notre désir de croire dans la connaissance de Dieu. La dimension d'unité proposée par le Saint-Esprit dont nous avons parlé, avec cette dimension où nous libérons, alléluia, la femme dans son appel, dans son ministère, c'est quelque chose qui va ébranler le monde spirituel. Et je voudrais terminer en vous disant ce que je vois. Je vois une joie intense dans le ciel en ce moment. Parmi les fils de Dieu, il y a une joie. Il y a une clameur qui monte à cause de ce message, cet enseignement. Alléluia. Et la gloire du Seigneur est ici. On va se lever simplement. Il y a ce chant dans mon esprit qui monte. Me voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Le maître du ciel et de la terre. Nous inclinons nos cœurs et nos êtres devant toi. Et nous t'adorons dans ta splendeur, dans ta magnificence. Nous louons ton nom, Seigneur, pour l'assistance du ciel dans cet après-midi, pour la visitation du Saint-Esprit au milieu de nous, pour les malades que tu as touchés et ceux que tu vas encore guérir, ceux que tu vas visiter cette nuit dans leur maison, dans leur chambre, dans leur sommeil. Nous déclarons que la puissance du diable est brisée et que le royaume de Dieu s'est avancé dans ce jour, dans cette journée du 14 novembre, Seigneur. Nous déclarons que le royaume de Dieu est manifesté, qu'il a avancé dans cet après-midi, dans ce temps ensemble où nous avons ministré dans la présence de Dieu comme des sacrificateurs du Seigneur. Au nom de Jésus, nous déclarons que la gloire de Dieu nous libère des oppressions du diable et que ceux ici qui souffrent d'intimidation la nuit sont purifiés au nom de Jésus. Toute forme d'intimidation, toute forme d'impureté, sous quelque forme que cela, nous déclarons, je déclare, que ces puissances sont nulles et non revenues. Et je t'interdis de troubler le sommeil de mes bien-aimés cette nuit. Nous mettons une barrière de feu et de sang entre les bien-aimés et les esprits vindicatifs, les puissants de méchanceté. Nous déclarons que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Nous déclarons que l'intention de Dieu est de sauver, alléluia, et de libérer la vie et la foi dans toute cette région. Nous déclarons, Seigneur, que ta parole donnée tout à l'heure, cette vision de réveil et d'une maison trop petite, va s'accomplir. Nous demandons la gloire qui vient et qui va transformer, qui va permettre à un nombre incroyable de cette région parisienne et du grand axe autour de Paris de trouver la vie. Nous demandons, Seigneur, la dîme d'Aubergenville, de Mandelajolie, de tous ces lieux où les bien-aimés viennent. Nous demandons la dîme pour le royaume, au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que là, ta puissance de vie s'approche de nous pour faire de nous des canaux qui seront remplis de la joie d'en haut, de la joie du Seigneur. Et toi qui aspires à cette joie d'en haut, à donner ce témoignage que j'ai pu donner au point que les gens t'apostrophent, ouvre tes mains et reçois, alléluia, reçois cette capacité d'être témoin de Jésus et de porter la gloire et la joie du Seigneur, alléluia, reçois et sois marqué du sceau de son amour et de sa joie, de sa tendresse, de sa vie qui vient avec abondance. Oh, c'est en train de descendre. Alors recevez. Oh, Colette. Oh oui. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que la joie du Seigneur, que ta joie vienne sur ton peuple. Ne te retiens pas. Toute la nuit dans ton lit. Oh Dieu d'amour, merci pour ceux qui sont simples dans la foi et qui reçoivent la grâce.
Amen.
Alors si ça arrive à Colette, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Allez, c'est gratuit, régalez-vous mes amis, c'est le vin d'en haut. Les douleurs, la souffrance, la peur, les larmes qui font place à la joie d'en haut. Sois rempli. Que le tonneau de ta vie soit rempli par le nom de Jésus. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Mais réjouissez-vous. Réjouis-toi, Colette. Ça, c'est une dimension de, où tu vas pouvoir dominer sur tes adversaires. Qu'ils y viennent cette nuit, tu vois ce qui va se passer. Alléluia. Oh, c'est bon, hein. Et c'est gratuit. Mais tu reçois que si tu veux. Si tu veux pas recevoir, tu reçois pas, t'inquiète pas.